Vous aimez les effets spéciaux, vous aimez un son bien mixé, vous aimez une image bien étalonnée. Quand vous êtes sur le montage du film d'anniversaire de votre petit-neveu Lucas 4 ans et qu'on vous demande si vous voulez venir boire un coup, vous répondez « Non, désolé, je peux pas, je suis en post-prod. » Alors vous aimerez ce numéro de Parlons Péloche. Compris dans ce Parlons Péloche hors série, aujourd'hui il sera question d'un épisode sur la post-production au cinéma. Voilà, la post-production regroupe l'ensemble des opérations qui mènent à l'aboutissement de la création d'une œuvre audiovisuelle ou audiovisuelle. Au cinéma, elle est la troisième étape de production d'un film, elle vient après la pré-production et le tournage, et elle mène donc à l'aboutissement définitif du projet. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce qu'il y a derrière cette notion. Nous nous demanderons également ce qui évolue en bien ou en mal dans la post-production ces dernières années. Et c'est après avoir parlé d'exemples marquants de post-production dans notre cinématographie qu'Antoine nous proposera une prout-production avec sa chronique de fin d'émission. Mais pour parler de la c'est pas fou, mais voilà. Mais pour parler de la post-production autour de la table, vous le connaissez sûrement car dans le milieu du montage, on l'appelle le monteur. C'est David. Bonsoir David.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous le connaissez dans d'autres milieux aussi. Hein. Vous le connaissez sûrement.
Il a piqué le bonsoir d'Antoine, j'ai remarqué.
Mais c'est vrai.
Ah, mais je change à chaque fois.
Ah oui, pas de personnalité.
Il cherche encore une identité publique.
Bah, du coup, j'ai dit salut, je me suis fait engueuler alors.
Vous le connaissez sûrement car dans le milieu de l'étalonnage, on l'appelle l'étalon. C'est Fouad, bonsoir Fouad.
Salut Thomas.
Vous le connaissez sûrement car pour donner du rythme à l'émission, ça fait maintenant 80 podcasts que je remplace son rire naturel par un effet sonore en post-production, mixant le son du notari en rue et le cri d'un étourneau. C'est Antoine, bonsoir Antoine.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous la connaissez sûrement.
Bah parce qu'elle est pas là.
Car elle n'a manqué aucun épisode de Parlons Péloche depuis le début. Du coup, pour garder ça inchangé, je l'incrusterai en post-production. C'est Béa. Bonsoir Béa.
Bonsoir Thomas.
C'est notre invité du jour et vous le connaissez sûrement car il a travaillé à la post-production de Star Wars épisode 8, Le Livre de la Jungle de Jon Favreau, Ready Player One de Steven Spielberg et celle du prochain James Bond. Mais la plus grande fierté de sa carrière, ça reste d'avoir été invité dans notre épisode de Parlons Péloche sur Steven Spielberg. C'est Yoann Leclerc. Bonsoir Yoann.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Et enfin, vous le connaissez sûrement car il a aussi bossé un peu dans les effets spéciaux puisque c'est lui qui a codé le filtre grosse bouche sur Snapchat. C'est Tristan. Bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Et bien voilà, on passe à la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux, tu sais.
Tas de beaux yeux, tu sais.
Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce que nous évoque la notion de post-production au cinéma. Je l'ai dit dans l'introduction, la post-production est l'étape de finalisation d'un film et elle peut comprendre le montage de l'image, le bruitage, la post-synchro, le montage son, le doublage, le mixage, mais aussi les effets spéciaux et l'étalonnage de l'image. Est-ce que j'ai besoin d'être étalonné, Béa, ou est-ce que tu me trouves jolie physiquement?
Tu es beau, Thomas.
Voilà, merci Béa. Alors, mais pour vous...
Ça se sent que c'est faux.
Autour de la table... Non, ça va, on dirait vraiment qu'elle est là. Quand je dis post-production, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, on va faire un petit jeu. Vous allez me dire rapidement, les chroniqueurs, qu'est-ce qui est pour vous la post-production? Rapidement, ce que ça vous évoque et... Yoann viendra nous casser en quatre, enfin nous dire ce que c'est vraiment la post-production. Non, Yoann n'est pas venu avec un objectif de violence, non?
Plutôt non, pas du tout.
Pas du tout. Bon, merci, merci Yoann. Donc, Fouad, c'est quoi pour toi la post-prod? Qu'est-ce que tu mets derrière la post-prod?
Dans la post-prod, je mets tout ce qui va faire que le film va devenir un film.
Regardable. Fait.
C'est ça, c'est pas que la finition. C'est qu'il y a l'adage qui dit qu'un film s'écrit trois fois, c'est-à-dire au scénario, au tournage et au montage. En fait, j'ajouterais quatre fois, cinq fois à chaque étape de la post-prod. C'est une manière de décrire ou de réécrire un film.
Et on verra aussi que pour tout ce qui concerne, par exemple, les effets spéciaux ou tous les effets de post-production, c'est souvent pensé aussi dans les deux étapes préalables. Forcément, pour incruster un... c'est pas un truc qui vient par après. J'imagine qu'il y a des ajustements, mais on y pense avant, n'est-ce pas Yoann?
Bah, de plus en plus maintenant, en plus pour les films dont le budget effet visuel, je me permets de préciser parce que un effet spécial, c'est souvent les explosions qui sont faites au moment du tournage, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un effet spécial. Et donc, les effets visuels, c'est vraiment la post-production. C'est un peu un abus de langage de parler d'effets spéciaux en général, c'est juste que voilà.
Tu vas me corriger, moi et Wikipédia, parce que c'est dans Wikipédia que j'ai mis ça. Mais, bon, mais c'est vrai que c'est important de le dire, donc la différence entre effets visuels et effets spéciaux.
Yeah, voilà. Et de plus en plus, aujourd'hui, c'est par exemple intéressant de regarder que je crois que les 10 plus gros succès de l'histoire du cinéma sont 10 films à fort connotation effet visuel.
Ouais, ouais.
Donc oui, ça devient une partie intégrante de tout projet cinématographique, je pense.
Il y a un peu cette idée populaire qui dit, moi, quand je vais au cinéma, je me déplace pas pour voir, je sais pas, un petit film français, mais pour voir un truc, on en aura plein les yeux, et ça passe forcément par les effets visuels et un gros budget de post-prod. Antoine, pour toi, c'est quoi la post-prod ? Qu'est-ce qui est le premier truc qui te vient ? Moi, dans ma tête, c'était effets spéciaux, le premier truc qui me venait, justement, c'était ça.
Moi, c'est étalonnage.
C'est vrai ou pas ?
Non. Non, mais oui, c'est vrai, parce que j'ai toujours vu... parce que quand on regarde des making-of ou autre, et à chaque fois, parce que j'aime beaucoup ça, à chaque fois qu'on arrive sur... voilà, ils sont en train de faire la post-production, et tu les vois tous en train d'étalonner les images, une à une, frame par frame. Mmh.
T'as toujours le avant-après qui est hyper impressionnant.
Ça. Et ils passent 20 ans dessus, mais ça marche bien. Et du fait qu'il y a les raccords lumière, il y a tout qui est fait, en fait. C'est un peu la précision ultime de...
Qu'est-ce qui est pro et qu'est-ce qui est un film d'anniversaire, finalement.
C'est ça.
Donc, c'est un peu la première différence avec le son, je dirais aussi. Yuen, qui est réalisateur aussi, tu réalises des courts-métrages.
Courts-métrages, ouais.
Et tu fais... là, on en a discuté à midi autour d'une bonne purée bavette. Tu t'expliquais que t'étais sur l'étalonnage d'un film. Et par exemple, sur un court-métrage de 10 minutes, t'estimes à combien de temps, toi, t'as duré pour l'étalonner.
Donc, en faisant ça en nombre d'heures.
Ouais, par exemple.
Ouais, en nombre d'heures. Pour 10 minutes, je dirais peut-être 5-6 heures d'étalonnage. Ouais.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un travail pénible, mais très utile.
Mais c'est... et pour moi, là où je rejoins Antoine, je trouve que vraiment, c'est peut-être un aspect un peu méconnu de la post-production. L'étalonnage, c'est vraiment au niveau visuel le liant final du film. Et même nous, en studio d'effets visuels, on travaille avec des images non étalonnées. Donc, c'est-à-dire que d'un plan à l'autre, ça peut sauter en termes d'exposition, de couleurs, etc.
Ouais.
Et c'est vraiment... L'étalonnage, c'est la toute dernière étape de tout bien mettre comme il faut.
Et j'ai envie de dire, c'est pas si c'est une connerie ce que je vais dire, mais il y a des réalisateurs pour qui, finalement, quand on dit qu'ils ont une jolie photographie ou alors des jolies couleurs, tout passe par l'étalonnage. Je pense à Wes Anderson, par exemple, où j'imagine que...
Ouais. Et souvent, le directeur de la photographie est très, très... Je trouve plus mes mots en français, c'est terrible. Involved.
Impliqué,
merci.
Ça fait trop que là, j'aime bien. Yuen travaille à Londres, sachez-le.
Oui, voilà, j'habite et je travaille à Londres depuis 10 ans maintenant. Souvent, les directeurs de la photographie et le réalisateur sont très, très impliqués avec le coloriste pour terminer l'étalonnage du film. Et il y a des coloristes très connus qui, en fait, c'est vraiment une science, presque. L'étalonnage, la science de la colorimétrie au cinéma, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique, précis et... Ouais.
Et j'en profite parce que je dis tu travailles à Londres, tout ça, je t'ai un peu présenté en faisant des blagues dans l'intro, mais est-ce que rapidement quand même, pour ceux qui ne te connaîtraient pas dans les auditeurs de Parlant Péloche, tu peux redire sur quoi tu bosses en ce moment, quel est exactement ton métier, rapidement ?
Donc je travaille à Londres dans un studio qui s'appelle Framestore, qui entre autres a travaillé par exemple sur Gravity, Blade Runner, ce genre de choses. Je viens de terminer la post-production effet visuel de No Time to Die. Mourir peut attendre en français, je crois.
Ouais. Du coup, vu que le film est reculé, vous allez avoir un peu plus de temps pour bosser dessus ou...
Alors, normalement, le film était fini, mais du coup, la production a décidé de changer un peu le film, donc on va avoir un peu de travail en plus.
Oui, ils refont le design de James Bond parce que les fans sont pleins à la bande-annonce.
Ça y ressemble à un hérisson bleu.
Donc, je pense que ça va être assez mineur. Moi, je ne serai pas impliqué sur ces petites retouches, on va dire, puisque ça fait deux semaines que j'ai commencé sur le remake live-action de La Petite Sirène. Donc, il va prévu pour fin 2021, peut-être 2022. Donc voilà, je retourne à mes amours de Disney et du Livre de la Jungle.
Là, du coup, pendant 2 ans, tu vas bosser sur le même film.
Ouais, voilà.
Au bout d'un moment, tu peux plus les voir en peinture, les acteurs.
Je pense
acteurs,
que je vais, c'est surtout les. À mon avis, je vais finir par rêver de poissons et je vais rêver de Sébastien et de sous l'océan et de ce genre de choses.
Mais on sait en plus que le défi est très grand. Alors, on a un grand débat dans toute l'équipe autour de Aquaman, mais faire le film sous l'eau, c'est un des trucs les plus durs, donc c'est compliqué. On parlait de tes amours de Disney. J'aime bien le rappeler tout le temps parce que j'adore dire que j'ai un pote qui a un Oscar. Donc, t'as eu un Oscar pour Le Livre de la Jungle parce que t'as bossé sur ce film-là, donc en 2017.
L'Oscar 2016, ouais. Et on a travaillé dessus, c'était 2014.
2014, et je me demandais, parce que j'arrête pas de t'en parler, je suis presque relou avec ça, est-ce que c'est pour toi aujourd'hui la plus grande fierté de ta carrière, ou est-ce que c'est d'avoir tout simplement parlé à Steven Spielberg, ou est-ce que c'est autre chose?
Je pense qu'en termes de projet, Le Roi Lion, ben non, justement, ce n'est pas Le Roi Lion, je n'ai pas travaillé sur Le Roi Lion, Le Lapsus Révélateur, non, Le Livre de la Jungle reste le projet dont je suis le plus fier, parce qu'aussi en termes d'équipe, nous, en interne, ça a été 18 mois de folie où on savait qu'on travaillait sur quelque chose de nouveau. Mmh. Et je me rappelle très bien les premières images qui sont sorties du film. On les a vues et on s'est dit, on tient un truc.
On fait avancer le cinoche un peu.
On fait avancer le cinéma.
L'équipe de 4,
clairement.
Ça n'a pas eu la même réaction. Ouais.
Non, non.
Et donc pour ça, ça restera jusqu'à présent le plus beau projet de ma carrière. Ouais. C'était Ready Player One, c'était très agréable, effectivement, travailler...
mineur, Spielberg.
C'est... ouais... c'est vrai que dans la relation de travail dans la relation de travail, c'était hyper intéressant d'être si proche au contact de Steven Spielberg, parce que donc pour les gens qui peut-être n'auraient pas écouté le podcast sur Steven Spielberg, ouais. C'est quelqu'un qui est très féru de technologie et particulièrement d'effets visuels, et donc il aime beaucoup être au contact des artistes, poser directement des questions aux artistes sur comment t'as fait ça, est-ce qu'on pourrait envisager ça, est-ce qu'on pourrait travailler ça de cette manière-là, et c'était très intéressant d'avoir cette relation avec lui, parce que ça n'est pas le cas avec tous les réalisateurs.
T'as encore son numéro? Je peux venir faire un Parlons Péloche?
Je suis pas dispo avant sa mort, apparemment, d'après ses agents. Tristan, toi, quand on dit post-prod, à quoi tu penses?
Moi, je vois Andy Serkis en costume bleu.
Ouais, c'est pas bête, ça, vrai.
Non, parce que la motion capture, ça m'a toujours hyper impressionné.
Ouais.
Et je trouve que la technologie est folle, quoi. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un mec et des capteurs sur sa tronche, sur son corps entier, quoi.
Et on verra que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Moi, par exemple, les questions que je me pose là-dessus, c'est la part de... Voilà, tout le monde s'accorde à dire qu'Andy Serkis est un génie, par exemple. Et moi, je remets ça en doute. Je dis, je sais pas.
Et bien, dans l'industrie, par exemple, des effets visuels, il n'a pas forcément bonne réputation parce que il a eu certaines sorties dans la presse au niveau marketing ou relations presse où il s'attire à lui beaucoup de la réussite du travail, etc. Voilà. Alors qu'il y a quand même beaucoup de films sur lesquels il a travaillé où derrière, une fois enregistré sa performance sur le plateau, il y a des équipes d'animation qui repassent des mois et des mois à nettoyer l'animation.
Ouais, voilà,
C'est-à-dire que c'est pas c'est pas un passage brut et direct de un acteur fait de la performance capture et c'est un pour un ce qu'on voit au cinéma. Il y a une grosse étape de nettoyage et
surtout dans la première trilogie où là c'était vraiment de l'animation par au-dessus,
Et d'ailleurs il a reçu il y a quelques mois un BAFTA d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, et il a pris le temps dans son discours de remercier tous les développeurs, tous les artistes, etc., avec qui il a pu travailler. Donc c'était un peu
c'est racheter une petite conscience.
Exactement. Ouais. Voilà.
Parce que non, mais beaucoup de gens dans le milieu du cinéma crient au fait que il devrait avoir un Oscar un jour, Andy Serkis, tout ça. Oui, on ne sait pas en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Alors peut-être que oui, mais bon, voilà.
C'est... Après, son travail était quand même nécessaire.
Ah, complètement.
Il y a une vraie complémentarité en fait.
Et je pense qu'il y a des choses qu'il apporte au personnage de Gollum ou de César.
Qui sont utiles,
ce genre de choses
animateurs.
Un animateur... À moins d'être, peut-être, il y a certains grands directeurs d'animation qui auraient pu arriver à créer ça directement à partir de rien, en image par image, en animation traditionnelle. Mais effectivement, la base de travail qu'amène Andy Serkis, c'est assez exceptionnel, je pense.
Donc là, on parlait de la motion capture. On verra aussi, pour moi, dans cette grande famille d'effets de post-production, on parlera aujourd'hui beaucoup des rajeunissements de faciès et de faire revivre des acteurs, comme on peut penser à la chère princesse Leia. David, pour conclure, sur qu'est-ce que toi tu penses quel est le premier truc qui te vient en tête quand on parle post-prod?
Ouais, pour moi aussi, je rejoins un peu Fouad, c'est tout, en fait. Parce que, en gros, c'est comment tu prends une matière brute qui ne ressemble pas à grand-chose et comment t'en fais une œuvre d'art. Et pour moi, c'est ça, la post-prod. Et pareil, comme Antoine, je me suis bouffé de...
J'ai eu plein de blagues à faire que je n'ai pas fait.
Mais n'hésite pas. Je me suis bouffé plein de making-of jusqu'à... surtout pour les films que j'adore vraiment, je me les suis un peu cassé parce que maintenant, quand je regarde les films, je dis, ils ont fait ça comme ça, ils ont fait ça comme ça. Mais encore maintenant, là, il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Sam & Nico, c'est VFX Artist React, et ils parlent en anglais de termes que je comprends pas, je comprends pas leur langage, je comprends pas comment ils travaillent, mais je suis subjugué par tout ce qu'ils essayent de raconter et comment ils disent, comment ils expliquent pourquoi cet effet visuel là est raté et pourquoi celui-ci est réussi. Et du coup, tu revois les films et tu les reprends dans un socle beaucoup plus crédible, etc. C'est vraiment intéressant.
Ouais. Ouais, y a une image qui m'a marqué. C'est une photo du tournage de l'Attaque des Clones, donc de l'épisode 2 de Star Wars. Ouais. Et je pense que ça concerne toute la prélogie. En fait, les images brutes de tournage, oui, c'est des mecs en pyjama bleu qui se battent avec les acteurs. Et ça, c'est tellement
Va rentrer dans le personnage. Du coup,
la, la version brute de la prélogie.
Mais sur des poutres vertes.
Il suffit de voir le regard d'Ewan McGregor pendant toute la prélogie.
C'est vrai.
Il dit, il sait pas où il est, il sait pas quoi regarder.
C'est un côté sur le vide. Dans le fait que la post-prod, ouais, c'est fondamental.
Dans le même esprit, j'ai les images d'Harry Potter emballées, qui sont aussi pas mal du tout. Quoi.
C'est, le Quidditch.
Ça rend pas du rêve. Ouais, ça rend pas du rêve. Et toi, Béa, qu'est-ce que tu penses de la post-prod?
Tu es beau, Thomas.
Ça marche. Merci, Béa. Et donc, on va terminer par toi, Yuen, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, là, forcément, tu travailles dans deux secteurs majeurs de la post-prod, si je me rappelle bien, tu fais beaucoup tout ce qui est light, finalement,
oui,
tout ce qui est texture,
oui,
je disais.
Donc moi, puisque les textures artistes, c'est vraiment des gens qui ont plutôt une formation pour le coup de graphiste et qui vont vraiment peindre des textures. Moi, ce qu'on regroupe dans le domaine de l'éclairage, donc qui est ma discipline, aujourd'hui je suis superviseur éclairage sur les films sur lesquels je travaille, on s'occupe de l'aspect des choses, donc, c'est-à-dire qu'on on utilise les textures qui ont été créées par des textures artistes pour recréer les propriétés physiques des matériaux. Donc si ça doit ressembler à du bois, si ça doit être transparent comme du verre, si le plastique et le métal, par exemple, ne reflètent pas la lumière de la même façon. La peau humaine, la peau, la fourrure, tout ça, c'est la création de l'aspect des choses retombe sur le département éclairage dans les studios d'effets spéciaux, ouais, d'effets visuels. Même moi, voilà. Bon. ensuite, il y a la partie éclairage où effectivement, on va... Dans le cadre d'un film live action où on rajoute des effets sur les images, on va recréer les conditions d'éclairage utilisées pendant le tournage pour éclairer ce qu'on produit en images de synthèse et que ça soit quasiment un match en un pour un.
Comme si c'était des vrais acteurs.
Comme si c'était des vrais acteurs, des vrais objets, des vraies voitures. Pour ça, il y a une phase de... Finalement, cette phase-là, elle commence dès le tournage où il faut capturer l'information lumineuse des conditions du tournage,
vie,
de la
dire,
vraie vie,
ouais,
à ce moment-là. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu dans les making-of des gens avec des boules grises et des boules chromées. Donc en fait, en prenant des photographies de ces boules à des
moi
niveaux d'exposition différentes, on arrive à recréer des images qui s'appellent en anglais HDRI, donc High Dynamic Range Images. Donc, image à haute plage dynamique où, en fait, on arrive à capturer l'information lumineuse des conditions du tournage ce jour-là. Et nous, après, en post-production, on peut réutiliser ces images-là pour comme une gigantesque source de lumière qui vient entourer tout ce qu'on crée en images de synthèse. Et la dernière partie qui incombe à l'éclairage, c'est le calcul des images, puisque une fois qu'on a placé nos lumières dans notre logiciel de 3D, donc nos lumières virtuelles, notre caméra virtuelle, nos objets virtuels, le résultat que l'on voit à l'écran, c'est pas comme un jeu vidéo, c'est pas du tout du temps réel. Pour une image finale que vous voyez dans un film, le temps de calcul moyen est autour de 10-12 heures de calcul par image. Le cinéma, c'est 24 images par seconde. 48 images par seconde si c'est un film en relief, puisqu'il faut 24 images pour l'œil droit, 24 images pour l'œil gauche. Donc il y a aussi toute cette aspect de plus on arrive à optimiser les temps de calcul pour les réduire, c'est du temps de gagner pour le studio, donc de l'argent gagné. Donc voilà, donc c'est trois disciplines qui incombent au département éclairage dans un studio: le look development, qui est donc recréer l'aspect des choses, l'éclairage, le lighting, qui est recréer les conditions de lumière, et le rendering, le rendu des images, qui est donc le calcul final de l'image qu'on voit ensuite au cinéma.
Et fun fact, tu m'as dit que tu faisais tout ça sur Windows XP.
Tout à fait. Et des fois, la mise à jour, elle se met en route, du coup, ça plante.
Du coup, c'est chiant.
La base de signature de virus a été mise à jour.
Moi, j'ai la base virale VPS, elle a été mise à jour. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, on va passer au nom de Zeus, la deuxième séquence de l'émission, mais elle sera un petit peu différente que d'habitude, vous allez voir, parce qu'on va balayer justement des sujets qui ont fait plus ou moins la polémique ou pas du tout sur les avancées ou les reculs ou le bordel lié à la post-production. Donc, pour écouter la suite de tout ça, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est d'écouter la suite de l'émission, n'est-ce pas, Béa?
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thomas.
Voilà, donc on passe au nom de Zeus.
Nom de Zeus.
Bonsoir, le nom de Zeus, c'est donc... le nom de Zeus, c'est donc le moment de l'émission. On va encore une fois te parler de post-production, mais on va parler de petits événements liés à la post-production. Alors, je vais dire comme ça, il y aura la polémique 4, on va parler des effets invisibles, si vous ne savez pas ce que c'est, de la place grandissante des VFX dans le cinéma, et pas que dans le cinéma de science-fiction. On va parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de réincarner les morts, de faire rajeunir les vivants. Il y a plein de trucs, plein de sujets qu'on va aborder avec un grand spécialiste du soir, Yuen, qui est fait... Je suis sur RMC là, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Premier sujet que je propose de faire, alors il se trouve qu'en ce moment, donc tu sors tout juste d'un gros taf sur le dernier James Bond, et tu m'as parlé des effets invisibles liés à James Bond, et je ne savais pas ce que c'était, je me doute de ce que c'est, mais c'est quoi les effets invisibles en post-production ?
Dans un plan où on va remplacer un objet, par exemple dans le cadre d'un James Bond, une séquence de course-poursuite, on va peut-être effacer une voiture pour la décaler de quelques mètres pour rendre la cascade plus intéressante, plus dangereuse, plus intense, changer le visage d'un cascadeur parce que, par exemple, c'est pas Daniel Craig qui conduisait la moto à ce moment-là, ouais, c'était un cascadeur, et donc on va
le voit trop.
Greffer le visage de Daniel Craig sur le cascadeur. Donc c'est en fait tous ces qui sont finalement globalement 90% du travail qu'on fait, c'est-à-dire que finalement on fait pas beaucoup des monstres et des explosions et des choses comme ça, mais on fait beaucoup des voitures, des caisses en bois, des arbres, des montagnes, des choses comme ça, pour soit rendre plus intéressantes les images ou alors cacher parfois la misère.
Ouais.
Par exemple, un gros travail sur le James Bond cette année, ça a été effacer les drones des images. Parce qu'ils ont tourné énormément avec des drones. Maintenant, la technologie fait qu'on peut utiliser des images. Et donc, n'importe quelle cascade qu'ils ont fait, en tout cas sur la séquence où on travaillait, autour des voitures, il y a 4 ou 5 drones qui volent. Et que forcément, ben, après, au montage, ils ont choisi un de ces plans-là. On voit les drones sur les images, donc il faut par exemple les effacer.
Donc il y a l'aspect correction, l'aspect la manière de faire les décors. Moi par exemple, je suis allé cet été, petite expérience perso, je suis allé cet été en Irlande du Nord, là on a tourné pas mal d'épisodes de Game of Thrones, et il y a des trucs bêtes, mais il y a un épisode de la saison 2 de je sais plus quoi où ils transportent un cercueil, et en fait ils ont choisi une route en Irlande où il y a des arbres, des conifères qui ont 300 ans et qui sont magnifiques, mais en fait c'est tout con, mais la route qui est au milieu de ces conifères, elle est bitumée. Et eux, ce qu'il leur fallait, c'est des faux pavés, des faux choses. Donc tout ça, c'est refait derrière, et ça fait partie des effets où on se dit, tiens, où ils ont trouvé ce décor. En fait, il n'y a qu'une partie du décor qui est valable pour apparaître dans Game of Thrones, et l'autre partie, elle doit être corrigée. Pareil, j'ai fait ça avec un petit port où il y avait un marchand de glace. Bon, bah, le marchand de glace, il a clairement dégagé en numérique, ils lui ont pas cramé sa boutique. Donc c'est ça, les effets invisibles. Toi, là-dessus, quel est ton boulot lié aux effets invisibles ?
Bah nous, donc par exemple, dans le cadre de James Bond, clairement, recréer en images de synthèse les voitures, les éclairer telles qu'elles ont été filmées le jour du tournage,
ouais.
Et ensuite intégrer ces images par-dessus. Je peux parler de quelque chose, il faudra peut-être vérifier si j'ai le droit de le dire ou pas, ouais. Mais par exemple, il y a une séquence du film qui a été tournée avec...
Où James Bond meurt ?
Qui a été tournée avec un concept car d'Aston Martin,
okay.
Qui s'appelle Valhalla, un nom comme ça. Ils ont tourné une séquence qui est... Il n'y a pas de cascade, c'est... La voiture, elle conduit le long d'une route de campagne, elle s'arrête, Daniel Craig est à côté, ils montent dans la voiture, ils repartent.
Ils meurent.
Il ne se passe rien d'exceptionnel dans la voiture. Ils ont filmé la séquence avec cette voiture-là, et après, en regardant les images, ils ont découvert que finalement, ils n'aimaient pas tellement cette voiture.
Ouais.
Et donc, plutôt que de retourner la séquence, nous, en images de synthèse, on a construit une Aston Martin DBS.
Clio 2.
Qui est donc un... Voilà.
Mais j'aimerais bien savoir si cette équipe-là, par exemple, elle est capable de rendre la chronique d'Antoine bien à la fin de l'émission en faisant ce genre d'effet. Moi, j'y arrive pas, en tout cas.
Voilà.
Mais donc, c'est comme toi, n'a pas réagi du tout.
Ce que j'y pense depuis le début.
Et en termes de budget, ça coûte plus cher de refaire des effets spéciaux que de retourner la scène, non ?
Alors, il faut rebooker une équipe de tournage, il faut rebooker les acteurs, il faut retourner sur les lieux du tournage, il faut repréparer la route. Je suis pas producteur, donc je sais pas quelles sont les sommes engagées, mais peut-être que finalement, c'est pas plus cher de faire ça en images de synthèse.
En parlant de voiture virtuelle, je voulais avoir ton avis sur Mission Impossible Fallout, la scène des Champs-Élysées sur le rond-point. J'arrive pas à voir, est-ce qu'il y a des voitures virtuelles ou pas ?
Je pense qu'il y a des voitures qui ont été rajoutées. Je crois me souvenir d'avoir vu des making-of où effectivement ils ont rajouté des voitures pour rendre la chose plus dangereuse.
Plus dangereuse, voilà. D'accord. Ouais.
Mais même dans James Bond, il y a des trucs encore plus gros. J'avais lu que dans Spectre, je crois qu'ils ont tourné ça au Maroc, mais dans le désert, il n'y avait vraiment rien. Et ils ont complètement fait en 3D le QG de Christoph Waltz, en fait, du méchant, qui font exploser à la fin.
Oui,
et en fait, ils ont filmé de vraies explosions. Je crois que c'est un record. Ils ont filmé la plus grosse explosion jamais filmée. Mm. Et qu'ils ont incrusté sur la 3D de la destruction du bâtiment, en fait. C'est fou. Enfin, et ils ont mis les acteurs en plus devant l'explosion pour rendre encore plus réel.
Il me semble, non?
Non, je crois que c'est Spectre.
Dans Spectre.
Ouais.
Ils ont pris un mammouth
dans le désert,
apparemment.
Et ça signifie qu'aujourd'hui, des effets spéciaux, il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Enfin, effets spéciaux, c'est pas le bon terme. Hein.
Effets visuels, pardon.
Mm. Il y en a beaucoup plus qu'on croit, y compris dans des petits films.
Ah oui.
Petit budget pour un reflet sur une fenêtre.
Un reflet de caméra. Voilà, ouais. une des autres tâches assez communes dans nos métiers, c'est effacer les reflets de caméra.
Christian qui est dans la baie vitrée.
Dans les voitures, dans les fenêtres, c'est très courant. Les perches dans le champ, les câbles qui parfois sécurisent les acteurs.
Du coup, les mecs sur Allociné, ils ont beaucoup moins de taf maintenant.
Finalement, je pense qu'on parlait tout à l'heure d'un petit film français. Voilà, on va voir un petit film français. Vous allez sûrement voir un film avec des effets visuels. C'est-à-dire que si vous restez au générique, il y aura sûrement vers la fin du générique une société d'effets visuels et quelques artistes crédités.
On va rajeunir Lynn Renault dans La Petite Famille.
Mais, enlever les brouettes sans clavier.
Tu m'en as parlé hors antenne. Justement, on parle d'un film qui a cartonné cette année, Parasite. Tu m'as dit qu'il y avait la moitié des plans dans lesquels il y avait des effets spéciaux.
Donc le film compte 960 plans au total. Sur ces 960 plans, il y en a 400 qui sont des plans truqués. Par exemple,
ils sont pas coréens.
L'intégralité du tournage a eu lieu en studio. C'est-à-dire que la maison n'existe pas, l'appartement en sous-sol où ils habitent n'existe pas.
Le jardin est
en studio. Et par exemple, les plans de l'extérieur, ils ont construit seulement le rez-de-chaussée de la maison. Donc le premier étage est complètement rajouté en image de synthèse quand on voit la maison de l'extérieur, par exemple. Voilà.
Quand on sait que l'acteur dans ce film-là, enfin la maison est aussi un personnage du film, c'est assez incroyable. Et moi je me disais justement, parce qu'il faut voir jusqu'à quel point il y a de l'abus, c'est une question qu'on va poser, mais il y a aussi quelque chose justement dans Parasite qui fait très onirique, je trouve tout fait très onirique, et peut-être c'est dû au fait qu'il y ait une intervention comme ça des VFX. Donc la définition exacte de VFX, c'est effet visuel finalement,
oui,
je veux juste dire ça.
Et on parlait d'ILM tout à l'heure avec Yuen. ILM a été un peu précurseur sur ce créneau-là, notamment avec la série Le jeune Indiana Jones, avec la multiplication des foules et l'ajout de matte painting numérique. C'est l'une des premières séries, si c'était la première série, qui a utilisé justement des effets visuels pas visibles, en ajoutant des façades ou en construisant juste des rez-de-chaussée pour ensuite étendre les façades numériquement, ou avec des plans de foule ou avec des régiments militaires à l'écran. En fait, ils filmaient 10 figurants et les multipliaient. C'est une série très intéressante sur cet aspect-là, puisqu'elle a servi de laboratoire après pour la prélogie, en fait.
On va faire une explication de texte pour ceux qui ne savent pas. ILM, donc c'est la société d'effets spéciaux créée par George Lucas à l'occasion de Star Wars épisode 4, du coup, et qui aujourd'hui existe encore, mais ne travaille même plus sur Star Wars, je crois, sur les
elle est encore toujours l'exclusivité.
Donc du coup, il a dû gérer ça dans le contrat, George. Un petit, on va te sous-traiter quand même encore à Disney les effets spéciaux. Hein. Il est sûrement.
Je pense qu'au moment du rachat de Lucasfilm par Disney, ils ont récupéré l'intégralité. ILM. ILM, et puisqu'on parle de production, il y a aussi Skywalker Sound, qui est donc un énorme studio son très 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 connu, qui font pas que du Star Wars, mais qui appartient aussi à Lucasfilm.
Mais tu vois, les effets invisibles, c'est génial parce que c'est la nouvelle arme pour les réalisateurs qui sont maniaques.
Ouais.
Et David Fincher, il jure que par ça, tu vois. C'est
oui.
Pourquoi tous ces plans, même dans Parasite, pourquoi tous ces plans, ils sont un peu en mode tout carré, tout en, j'ai oublié le mot aussi, on est
parallélisme, non?
Ouais, un parallélisme, etc. Parce que tout est et notamment le Tarantino qui a coûté 95 millions de dollars, mais il y a beaucoup d'effets visuels pour la reconstitution, en fait.
Ouais.
Et donc du coup,
pour nous plonger dans une époque particulière.
C'est ça. Ouais. Et même toutes les séries télé de maintenant qui sont toutes tournées au Canada genre Grey's Anatomy, ils disent on est à Seattle, ils sont jamais à Seattle, en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que avec même des trucs bidon, en fait, mais t'as vraiment besoin des effets spéciaux pour gagner du temps, gagner de l'argent, gagner tout ce que tu veux.
Et moi, le premier cinéaste, justement, qui m'a fait découvrir ces effets visuels invisibles, c'est Robert Zemeckis, notamment avec Forrest Gump.
Ouais.
Où, alors, bien sûr, les scènes où il serre la main des présidents, alors ça, à l'évidence, on s'en rend compte que c'est un effet spécial pour le réalisme, en fait, de la scène. Et c'est ça qui est intéressant.
Ou même faire des plans de taré, parce que dans Contact et dans Apparence, t'as plein de plans, oui. La caméra est carrément libre, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de coupure, c'est juste les effets visuels qui rattrapent le tout, notamment le plan iconique de Contact où elle chope dans l'armoire avec un miroir les médicaments.
Oui, ah, oui, 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 ouais, ce
et
fameux
ça,
plan.
C'est hallucinant.
Et la plume qui ouvre et qui ferme le film, Forrest Gump.
Elle est en image de synthèse.
Elle est totalement. Alors moi, à l'époque, je découvre ça, je me dis, mais comment il a... Putain, mais ça doit être... Il a dû s'emmerder pour filmer une plume, comme il a fait.
Mais moi, c'est un peu comme toi, c'est Zemeckis, mais avec Roger Rabbit, tu vois.
Ah ouais.
Je trouve que les incrustations sont folles. Enfin, ça marche tellement bien.
Et ça marche même mieux que... Tu vas voir Sonic, tu te dis, bah, Roger Rabbit le faisait mieux, quoi.
Ouais.
Et alors que ça devait être une chiasse à faire. Mais même dans Retour à le futur 3, toute la scène avec la locomotive, c'est sur fond bleu. Et les cascadeurs n'ont pas tourné parce que là, apparemment la robe de la copine du doc, elle était pas assez reconnaissable par rapport à la locomotive, et donc du coup quand ils faisaient leur technique habituelle, et ben du coup ça, donc optique, ça jurait trop en fait, on n'arrivait pas à voir le truc, et du coup ils l'ont fait sur fond bleu.
D'ailleurs, je voulais poser une question. Tu parles de fond bleu, c'est un vieux truc qu'on connaît, fond bleu, fond vert. Pourquoi le fond bleu et le fond vert?
Alors, bleu, le vert.
Il faut les choisir.
Avant, c'était bleu,
donc,
après,
t'as
paru le
vert. Je pense que le tout premier, c'est le vert.
Ah, c'est le vert, d'accord.
C'est le vert parce que la manière dont les caméras digitales sont au niveau du capteur, et elles capturent deux fois plus l'information du vert que du rouge et du bleu. C'est-à-dire que la manière dont sont arrangés les petits capteurs, c'est... si je dis pas de bêtises, c'est un rouge, un vert, un bleu, un vert, un rouge, un vert, un bleu, un vert. Donc il y a deux fois plus de vert que des autres couleurs. Ouais. Donc en termes de... Quand on regarde l'image, si on regarde uniquement le rouge, uniquement le bleu ou uniquement le vert, ça va être le canal de couleurs où il y aura le plus d'informations et le moins de bruit dans l'image. Mmh. Donc c'est clairement le canal de couleur où on va pouvoir détourer de manière la plus précise,
détaillé,
et supprimer le fond vert et garder le reste. Et je pense que mine de rien, il y a quelque chose qui remonte à bien avant ça, où le vert a toujours été une couleur maudite au théâtre.
Il fallait la supprimer.
Du coup, je pense que naturellement, le cinéma, ça a été aussi, c'est une couleur qui rend pas bien à l'écran, c'est très dur à éclairer le vert, par exemple.
On a vu Green Lantern.
Ça peut tout de suite faire un peu maladif, un peu, etc. Ouais. C'est une couleur un peu délicate.
Anxiogène.
Et pourquoi après ils ont passé à du fond bleu, c'est parce que, par exemple, pourquoi le livre de la jungle, Mowgli, donc qui est un vrai petit garçon, a été tourné sur fond bleu, c'est parce que autour de lui il avait un peu de végétation qui du coup est verte.
Ouais.
Et donc on peut pas,
Faut une solution de repli, quoi.
Voilà. Ouais. Et par exemple, les séquences avec si on tourne avec de l'eau et un fond. On va mettre un fond bleu plus facilement qu'un fond vert parce que c'est plus facile de camoufler les reflets du fond bleu dans l'eau que d'avoir des reflets verts qui
foutent la merde.
Voilà. Ouais.
Et c'est vrai que les scènes tournées de nuit, on parvient à mieux camoufler les effets visuels, effets spéciaux de nuit sur des plans de nuit.
Ah bah oui, de manière générale. Un des trucs du pauvre quand il y a un effet qui marche pas très bien ou qu'il y a pas beaucoup de budget, c'est d'assombrir un peu l'image, et puis forcément on perd un peu
beaucoup. Je me souviens la dernière fois où ça m'a choqué, pourtant que j'avais été un des seuls au monde à avoir aimé ce film, c'est dans la tour sombre. Il y a un combat énorme contre un monstre et c'est vraiment dans un décor qui a été créé et tout, on voit absolument rien, c'est pas lisible parce que visiblement ça rendait pas bien.
Voilà,
là, il fait nuit noire, c'est même pas une nuit américaine.
Et justement à ce sujet, je trouve qu'il y a un plan dans Jurassic Park. Chef-d'œuvre, hein. Mais je trouve qu'il y a un plan qui marche moins bien. C'est un plan de jour. C'est juste après la poursuite des Gallimimus, là.
Ouais.
Les gosses et Alan Grant se font courser par des Gallimimus. À un moment donné, il y a le T-Rex qui rentre dans le champ et qui attrape un Gallimimus. Donc c'est tourné à Hawaï, je crois, en plein jour. Et je trouve que là, pour le coup, c'est le plan du film qui marche moins bien parce que justement à l'époque, c'était de jour et on avait plus de difficultés à cacher les.
Alors que le T-Rex.
Je viens de dire du mal de Jurassic Park.
Ça a pas vieilli, un T-Rex.
Écoute, tant que tu as lancé pour dire du mal, on va parler de la polémique Cats aux Oscars, le film Cats donc, qui a fait un bide absolu. Et ce bide serait vraisemblablement dû à une mauvaise post-production, en tout cas des mauvais choix. Est-ce que quelqu'un peut-être peut me résumer cette petite polémique? Peut-être David, tu maîtrises bien le sujet, non?
Bah ouais, je l'ai vu en salle.
Ouais, donc
la polémique,
un des rares,
je l'ai vu de mes yeux. Et en fait, effectivement, là où t'as des... c'est vraiment assez dingue, parce que là où t'as vraiment des plans qui sont vraiment très beaux, genre des fois ils font des gros plans sur les personnages où t'as la fourrure qui est photoréaliste, la lumière qui va devant, la poussière qui vole, tu te dis ça c'est super bien foutu, et en même temps t'as des plans qui font cinématique de PlayStation 1, notamment la chanson de Rebel Wilson où t'as des femmes en cafard et des enfants souris, ils ont incrusté des visages d'enfants, c'est atroce.
J'ai envie de voir ce film.
Non mais vraiment, moi j'espère que rien que cette scène elle sera sur YouTube pour qu'on puisse voir la galère du truc. Alors après il y a aussi une grosse galère dans ce film, c'est la direction artistique qui est vraiment atroce au départ, parce qu'en même temps ça veut faire photoréaliste, en même temps ça veut faire maquillage, et en fait ils savent pas sur quelle pièce danser, donc du coup il y a des choix complètement improbables, notamment un personnage qui a toujours de la morve au nez. Pourquoi ? Je sais pas, il y a un gars qui s'est amusé à faire de la morvonnée au personnage, mais... Et il y a des moments, des plans qui sont pas finis, notamment tous les plans de Judi Dench, où donc elle est en chat, et alors là où tous les autres acteurs ont des mains ont des mains avec de la fourrure, des mains de chat, etc., elle a ses mains normales avec des bagues et avec ses bijoux, etc., tu te dis, ah, il s'est passé
un truc. C'est pour ça que le film est sorti une deuxième fois en version corrigée.
Ouais.
À la base, ils ont sorti une version provisoire.
Mais je pense que c'est ça. En fait, il y a un terme de crunch quand on fait les effets spéciaux. Sauf que maintenant, les mecs de chez Sony qui ont bossé sur le film Sony, qui savent. Avant, le crunch était quelques jours avant la fin de la sortie. Maintenant, le crunch est 6 mois pendant que. Et donc, du coup, ça fait des délais que tu sais plus tenir.
Et le crunch, c'est quoi ? On va expliquer.
En gros, le crunch, c'est. Notamment moi qui bosse sur les jeux vidéo, c'est le jeu il va sortir, on fait des journées intenses où on dort presque pas et on fait que coder toute la journée pour pouvoir sortir le jeu à temps.
Mais dans un jeu vidéo, ils peuvent sortir un patch après.
C'est
pour corriger plein de trucs.
C'est ça.
Contrairement à un film.
Katz, ils l'ont fait, Antoine.
Alors moi, j'avais lu un petit article que Katz avait souffert en fait de sa bande-annonce qui est sortie en été. Ouais. Et c'est les retours publics. Et là, la prod a dit on change tout, mais il manquait de budget. Et c'est pour ça qu'il y a des scènes qui sont pas finies. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on change un peu les effets spéciaux, on va sur quelque chose d'effectivement plus fidèle à ce qu'on voulait faire. Mais il fallait quand même sortir le film, il y avait une date, et du coup, ils ont pas fini.
Mais moi, je pense que j'ai vu le film dégueulasse. Hein.
Ouais,
la première fois.
Apparemment, oui, si Juden, je suis encore ses mains.
Et justement, c'est une question que j'avais posée à Yuen, c'est, il y a peut-être plusieurs raisons, mais comment un film peut sortir alors que la post-prod est pas terminée? Qu'est-ce qui peut justifier ça?
Déjà, la sortie d'un film est fixée des mois à l'avance.
Mais le report, ça se fait de plus en plus.
Ça se fait de plus en plus, mais je pense qu'il y a un moment où aussi, en termes de... Quand il n'y a plus d'argent, c'est que les sociétés de... Toutes les sociétés diffusivisuelles, il n'y en a aucune qui appartient à un studio de cinéma. Donc, on est tous prestataires de services d'un studio. Ouais. Donc, Framestore, par exemple, est engagé par... Alors j'allais dire la Fox, mais la Fox n'existe plus.
Ouais.
Donc est engagé par Disney, est engagé par Sony, est engagé par Warner pour faire les effets visuels d'un film avec un certain budget. Ouais. Et souvent, il y a un appel d'offres. Et donc ILM va proposer une offre peut-être, Weta va faire une offre, Framestore va faire une offre, MPC, qui est donc entre autres le studio qui a bossé sur 4, va faire une offre. Et généralement, c'est le moins cher qui gagne, qui remporte le projet. Du coup, si le film et si le budget est petit et qu'à un moment il n'y a plus de budget, et les artistes ils arrêtent de travailler sur les plans. C'est aussi simple que ça.
Ouais. Et on calcule le ratio de est-ce qu'on sort quand même.
Est-ce que du coup le client de notre côté est ok pour payer un peu plus pour ou est-ce que on estime que la qualité est suffisante pour pouvoir sortir. Mais ça encore une fois c'est l'unique décisionnaire dans ce cas-là, c'est le réalisateur. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui valide.
C'est ça qui est grave, c'est parce que dans Sonic ou dans Cats. C'est la faute du réel. Tout le monde parle des sociétés d'effets spéciaux, mais c'est pas de leur faute. Eux, ils font ce qu'ils peuvent, mais
Et ça peut les.
Et je pense que c'est ça qui a créé un peu cette polémique au moment des Oscars. Rebel Wilson et
James Corden.
James Corden sont venus remettre l'Oscar des effets visuels habillé en cat. Ouais. Et une de leurs phrases d'accroche, ça a été « Nous, plus que tout autre aujourd'hui, savons l'importance d'avoir des effets visuels potables dans le film. » Donc forcément, ça a fait beaucoup rire dans la salle. En soi, comme tu l'as dit, les artistes, on se détache complètement au bout d'un moment de savoir si le film est bien ou pas. C'est-à-dire que nous, notre seul but à un moment, c'est on a des images, il faut les rendre les plus belles possibles. En rajoutant ce qu'on nous a demandé de rajouter, on est complètement déconnecté de est-ce que le film est bien ou pas. Ça, c'est la responsabilité du réalisateur.
C'est l'image, le réalisateur.
Ouais, c'est vraiment le réalisateur.
Mais du coup, j'ai une question pour toi, parce que j'ai vu très mauvaises réactions suite aux Oscars par des artistes, tu vois, c'est sur Cats. Oui. Et du coup, en tant qu'ego d'artiste, parce que là, du coup, les mecs disaient, mais eux n'ont pas bossé 80 heures semaine et ne se sont pas fait licencier dans un studio qui a fermé. Ouais. Enfin, en tant qu'ego d'artiste, je pense que tu prends vraiment... tu prends vraiment très à cœur et ça doit faire mal en fait, même dans une carrière quand t'as tellement travaillé sur un projet.
Et je pense que malheureusement aujourd'hui les artistes qui fabriquent les effets visuels au cinéma, on est encore un peu vu par l'industrie comme ah mais oui, c'est des petits mecs sur leur PC, c'est des geeks qui passent des nuits à faire des trucs et de toute façon on n'a pas besoin de les payer cher et on peut les faire travailler comme des brutes parce qu'ils adorent faire ça. Et malheureusement, c'est un sentiment qui est encore un peu toujours présent dans l'industrie. Pour revenir quelques années en arrière, je ne sais pas si vous vous rappelez Life of Pi.
Ah oui, non, ça c'est hallucinant.
Qui est donc un film où ils ont gagné l'Oscar des effets visuels, amplement mérité à l'époque, le film était fabuleux. Il faut savoir que le moment où le superviseur des effets visuels monte sur scène récupérer l'Oscar, le studio dans lequel il a travaillé a fait faillite. Tout le monde a été licencié 2 jours avant la cérémonie. Il essaye d'en parler à la fin de son speech de remerciement et on lui met la musique des Dents de la Mer et pour le couper.
Ouais.
Donc ça a un peu démarré toute cette vague de il faudrait que l'industrie du cinéma en général commence à reconnaître que les effets visuels aujourd'hui apportent une valeur ajoutée énorme au cinéma et qu'il y a des films qui n'existent que parce qu'il y a des artistes.
Mais vous gagnez combien, Yoann Leclerc ? C'est Jean-Jacques Bourdin sur...
considère comme un artiste ou un technicien, un peu les deux.
C'est à mi-chemin. Ouais.
C'est à mi-chemin.
Il y a une grosse partie scientifique, technique, informatique, mais finalement, le produit final qu'on sort, c'est une image. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'image que je produis.
C'est vrai que toi, derrière, c'est beaucoup de data et beaucoup de suites de chiffres. Tu reçois des tableaux
La manière dont on... Par exemple, l'aspect le plus technique, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc recréer l'aspect des choses, où là, je regarde en ce moment, par exemple, pour La Petite Sirène, je me tape des papiers scientifiques qui décrivent l'indice de réfraction des écailles de poisson. Voilà.
C'est 4 sous l'océan, quoi, tu vois.
je me tape
Monsieur
les...
Leclerc, c'est quoi l'indice de réfraction?
Je regarde des papiers sur comment l'océan absorbe les couleurs dans la profonde, comment l'eau de mer absorbe les couleurs à certaines profondeurs, etc. Ouais. Mais je fais ça uniquement parce que mon but final, c'est de créer une image qui sera jolie à regarder, si possible réaliste malgré tout, mais qui soit avant tout une belle image. Donc moi, je me considère vraiment comme artiste. Et,
dans 3 ans, on sera là, c'était de la merde. Vraiment, il est dégueulasse le film visuellement.
Et t'as un plan, t'as des images dont tu es particulièrement fier.
Moi, je crois que je sais, pour toi.
Ah.
Star Wars 8, le vaisseau dans le silence, non? T'es dessus.
C'est pas le... Ah. Ouais, je dirais pas que c'est la chose dont je suis le plus fier.
Ok, donc vas-y.
Qui te fait dire...
Oh, encore une fois, finalement, par exemple, Star Wars, c'était assez agréable comme projet. Mais... ouais, désolé. Non, mais c'est... Alors voilà, encore une... par exemple...
Bah, de ton point de vue, c'était
De mon
agréable.
Point de vue, c'était un projet relativement agréable. Je suis très content d'avoir travaillé dessus. Mais en termes de technologie, de prise de risque artistique, d'engouement général, c'était clairement pas le projet qui m'a fait le plus vibrer.
Okay.
Pour moi, voilà le.
Sur le CV, ça fait bien.
Sur le CV, ça fait bien, mais il faut réaliser qu'en fait, nous, on avait une petite blague. On disait que globalement, faire des vaisseaux dans Star Wars, c'est éclairer des boîtes à chaussures dans l'espace.
Parce que
de loin, ça ressemble un peu à un cube gris.
Ouais.
En plus, en termes d'éclairage, il y a une étoile, donc il y a une direction de lumière, et puis tout le reste est plutôt noir parce que c'est l'espace. Donc. Artistiquement, c'est pas mon plus gros kiff.
Mais tu parlais des premières images que vous avez sorties pour Livre de la Jungle. Ça t'a foutu les poils, par exemple.
Moi, par exemple, aujourd'hui, la séquence où Shere Khan est présenté dans le film, où il arrive autour du point d'eau, il descend, etc., c'est mon plus beau travail. Voilà.
Okay.
D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai à l'époque, donc je travaillais à MPC quand on a fait le Livre de la Jungle, et un des plans du film a été voté meilleur plan de l'année. Produit
par Plan Magazine
par le studio de tous les projets qu'MPC a fait cette année-là. Un de ces plans-là de Shere Khan au bord de la mare a été élu à la fin de l'année comme le plus blanc. Voilà,
donc
c'est
hyper fier.
Et d'ailleurs, si vous écoutez le making of de le commentaire audio de John Favreau sur le livre de la jungle, au moment de ce plan-là, il parle.
Il dit Yoann Leclerc.
Il dit pas mon nom, mais il parle de notre travail en disant ce plan-là, il trouve que lui aussi est un des plans les plus beaux du film. Parce qu'il dit c'est pas un plan qui visuellement est très intéressant, il n'y a pas d'explosion, il ne se passe pas grand-chose.
C'est dans
mais
le
dans
le
la
regard.
Qualité graphique, le regard, la présence de Shere Khan à l'écran à ce moment-là, il dit voilà, pour moi, c'est le plus beau plan du film.
Bah, je te confirme qu'en tant que spectateur, je me souviens encore de ce plan. C'est-à-dire qu'il est flippant.
C'est la présentation du méchant, quoi.
Donc, il fait peur.
C'est, dans
il
chaque
fait
film,
peur.
C'est hyper important.
Et alors, justement, on parle de Jon Favreau et on en parlait aussi quand on évoquait Le Roi Lion, là. Quel est le rôle de Jon Favreau dans ce type de projet, en fait?
Je vais plutôt parler du Livre de la Jungle parce que c'est là que. Voilà. Ce qui est intéressant avec Jon Favreau, c'est qu'il est venu à Londres. Au studio, il est venu nous faire un assez long speech, 45 minutes, peut-être en expliquant les raisons pour lesquelles aujourd'hui il avait envie de refaire le Livre de la Jungle.
La thune.
peut-être la thune, mais et surtout qu'est-ce qu'il voulait amener au projet, comment il voulait réinventer entre guillemets le Livre de la Jungle. Et je dois lui reconnaître que je me souviens très bien que après cette petite conversation avec lui, on était tous à remonter à 200% à dire ça va être le projet de l'année, on va gagner l'Oscar, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on le savait presque avant, en fait. Parce que il nous a transmis cette passion, cette motivation qu'il avait à ce moment-là de dire les gars, faisons quelque chose qui n'a jamais été vu. Il faut savoir que, par exemple, on utilisait un logiciel pour le logiciel qu'on utilise pour calculer les images, donc le logiciel qui va simuler la lumière, les interactions entre la matière et la lumière, tout ça, on appelle ça un moteur de rendu. Le plus célèbre est peut-être un moteur qui s'appelle RenderMan, qui est le moteur utilisé chez Pixar, qui a été développé chez Pixar.
C'est ça qui faisait tourner Snake sur la TI-82. Ça, je pense que vous le sachiez.
Et donc maintenant, c'est un produit commercial que Pixar vend et licencie à d'autres studios. Donc entre autres, pour le Livre de la Jungle, on a utilisé à l'époque
pirate.
Une toute nouvelle version de RenderMan qui était encore en bêta, qui était bourrée de bugs. On recevait une nouvelle version toutes les semaines. Et c'était la manière dont, à l'époque, je ne sais pas si on peut rentrer dans des détails un peu techniques, voilà. Aujourd'hui, la manière dont on simule l'éclairage en images de synthèse, c'est une technologie qui s'appelle le path tracing, donc le tracé de rayon en français. Et donc, en fait, on va, à partir de la caméra, si on prend l'image, chaque pixel, on va lancer un rayon, un vecteur de l'origine de la caméra jusqu'au pixel. Et ensuite, on va le faire rebondir un certain nombre de fois dans l'image en fonction des objets qu'il touche, jusqu'à ce qu'il touche une lampe, une de nos lampes virtuelles. Si jamais, à aucun moment, il touche une lampe et il s'en va dans l'infini de notre espace virtuel, c'est noir, il ne se passe rien. Et puis, s'il touche une lampe, on sait que cette lampe, elle éclaire d'une manière cette surface-là, et donc on calcule la couleur de ce pixel-là dépendamment de la lumière. Ce qui fait qu'une image devient réaliste aujourd'hui, c'est... par rapport à la réalité, si une pièce fermée avec une fenêtre, la lumière, elle rentre par la fenêtre, elle rebondit dans toutes les directions, et c'est ça qui donne la couleur aux objets, etc. Aujourd'hui, on est capable de simuler de manière réaliste 30 rebonds de lumière à l'intérieur d'un espace, alors que il y a quelques années de ça, les films étaient... On simulait toute la lumière indirecte. Et le Livre de la Jungle est un premier film où on utilise cette technologie de lancer de rayons pour simuler la lumière, et entre autres dans les fourrures, dans les choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui se voit visuellement, mais c'est à l'époque, moi j'ai des collègues qui m'ont dit « mais t'es fou d'aller sur ce projet, vous allez vous casser la gueule, ça va jamais marcher, c'est trop gros,
c'est trop gros,
carrément. Il y a trop de choses à faire, la technologie elle est pas là encore, c'est vraiment, c'est un très gros risque. » Finalement, le projet, c'est une grosse réussite.
C'est une référence, hein. C'est devenu vraiment une référence.
Et je pense que la passion à l'origine que Jon Favreau a mis dans le projet, ça s'est ressenti, ça a un peu éclaboussé tout le monde dans la production. Ouais. Quoi. Jusqu'à la technologie, jusqu'à se dire, ben oui, ne faisons pas de compromis sur la technologie parce que on est en train de faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant nous, quoi.
Donc l'Oscar ici, il a un vrai sens, c'est qu'en plus ça a fait avancer l'histoire du cinéma, clairement, on parle de gros projets comme le Livre de la Jungle avec beaucoup d'argent, mais il y a quelque chose de nouveau avec les effets visuels, c'est que maintenant c'est devenu accessible aux réalisateurs indépendants de plus en plus, hein, parce qu'il y a des logiciels d'animation et de compositing. Alors ça, je sais pas ce que c'est, un logiciel de compositing.
Le compositing, c'est en termes d'effets visuels, c'est la dernière étape. Donc une fois que nous, au département éclairage, on a calculé les images finales, on les donne à un département qui s'appelle le compositing, et eux vont mélanger les prises de vue réelles avec les images de synthèse, et ils vont refaire le grain de la caméra comme il faut, refaire le niveau de noir comme il faut, le niveau de blanc comme il faut, pour vraiment parfaitement intégrer l'image de synthèse dans la prise de vue réelle. Et donc, c'est en termes d'effet visuel, c'est la toute dernière étape de la chaîne.
Ok. Et du coup, bah, y a ces logiciels d'animation et de compositing qui sont à des prix de plus en plus abordables. Et du coup, il y a des prises en main simplifiées aussi sur tous ces logiciels-là. Donc, on a des réalisateurs indépendants qui ont accès à ça, ou leur équipe ont accès à ça. Du coup, ma question, c'est: est-ce que c'est la fin du cinéma indépendant tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un cinéma de la débrouille un peu plus, et où justement il y a parfois des choix artistiques qui sont pas des choix mais qui sont des choses subies?
Moi, je pense qu'au contraire, ça va favoriser le cinéma de la débrouille, puisque ça rend accessible ce type d'outils. Maintenant, on peut faire un film avec effets spéciaux, avec effets visuels, avec son téléphone portable quasiment. Il y a des applications qui te fournissent des effets visuels. Non, moi je pense qu'au contraire, ça va rendre accessible, démocratiser ces outils, même gratuitement. Il y en a un sur YouTube qui s'est amusé à refaire le rajeunissement de The Irishman avec un logiciel gratuit.
Ouais.
J'ai oublié le nom du logiciel.
C'est le
Donc moi je pense qu'au contraire, ça va favoriser la débrouille. Et peut-être que là, au moment où on se parle, il y a un gamin de 5 ans dans sa chambre qui a piqué le téléphone de son père ou de sa mère et qui est en train de découvrir...
YouPorn.
D'abord YouPorn.
Oh là là, casse pour les fesses.
Non, je suis désolé.
Magique.
C'est vrai que c'était hyper magique.
Je t'ai bien tendu la perche. Et il est en train de découvrir la magie du cinéma sur son téléphone portable. Donc moi, je pense qu'au contraire, ça va démocratiser la chose.
Ouais. Okay. Ça restera du ciné indé, mais
en même temps, un mec comme Sam Raimi, tu vois, il fait Evil Dead dans une cabane sans thune.
C'est ça que je veux dire.
Avec des hectolitres de sang. Est-ce que si le sang était numérique, ça aurait eu le même effet?
Pas sûr. En tout cas, pas la même appréhension aujourd'hui.
Et puis en plus, maintenant, t'as plus en plus de films qui disent: on va arrêter de faire. Mais d'ailleurs,
oui,
Star Wars, on va essayer
de faire. C'est devenu un mix maintenant des deux.
Et on va refaire des marionnettes.
Ah oui.
Jusqu'à Baby Yoda, qui est créé numériquement, mais à qui ils ont donné une texture et une animation de marionnette pour qu'on puisse se dire, voilà, ça ressemble à Yoda qu'on connaît.
Et ça va même plus... C'est qu'aujourd'hui, il y a des studios d'effets visuels qui n'ont pas le droit de dire qu'ils ont travaillé sur un film, parce qu'en termes de marketing et tout, on dit que c'est un film qui a été fait sans effets visuels.
Dis-le.
Alors, ça s'appelle Ford versus Ferrari, ça s'appelle pas comme
Le Mans 66.
Le Mans 66,
oui.
Pendant très longtemps... le film a été marketé comme: on a tout fait en vrai, il n'y a pas d'effet visuel.
Tu vois le film,
alors qu'on sait très bien que Brad Pitt n'existe pas.
Ouais, il joue pas dedans.
La com' là-dedans.
Voilà.
Hein.
Moi,
raison de plus.
Maintenant, on peut en parler sur le dernier Jedi, donc Star Wars épisode 8. Pendant très longtemps, on n'avait pas le droit de dire que la scène qui s'appelle maintenant Mary Poppins, donc la princesse Leia dans l'espace qui se réveille et qui vole vers le vaisseau, on n'avait pas le droit de dire que c'était de l'image de synthèse.
Oui, c'était de la prise de vue réelle dans l'espace.
Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, que l'élément utilisé par Leia, mais ça se voyait, mais on n'avait pas le droit de le dire.
Ouais. Voilà. Et là, à ce moment-là, quand tu bosses sur une scène comme ça, est-ce que tu te dis pas, tiens, là, ils vont peut-être un peu trop loin?
Je viens de me rendre compte
côté artistique
que j'ai
qui revient là.
Alors, j'ai travaillé sur ce plan-là en particulier de Leia dans l'espace. C'est très bizarre, mais sur le moment, je me suis dit, je suis en train de travailler sur quelqu'un qui est décédé.
Ouais.
Et mine de rien, ça faisait bizarre. En fait.
Ce
que je me demandais.
Non pas que ça soit Carrie Fisher et que ça soit Princesse Leia, etc. Ouais. Juste de me dire, cette personne-là est morte et on est en train de la refaire en image de synthèse.
Alors, il y a.
Et tu vois en boucle ces dernières images que tu utilises du coup aussi pour refaire son visage ou récupérer les rushs,
de
les derniers rushs.
Il n'y a pas des problématiques d'ayant droit, de droit à l'image. Il faut des autorisations pour.
Des histoires de production, c'est pas.
Mais là, par exemple, ils vont faire revivre James Dean. Et ils ont chopé les droits à la famille. Ils ont enfin eu les droits d'acquisition.
Je crois que dans le Floodcast, il y avait eu un débat là-dessus, parce qu'il y a le film Pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze, où il y a Louis de Funès dedans. En tout cas, c'est un imitateur et le singe lui ressemble. Mm. Et du coup, dans la fiche Wikipédia de Louis de Funès, c'est écrit qu'il a joué dans ce film, dans un film qui est sorti en 2015.
Ouais.
Donc il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci, en tout cas, de morale, ça, c'est sûr.
Mais ça, c'est fascinant. Excusez-moi, je reviens à Robert Zemeckis. Hein.
C'est
un pionnier. Oh, tu parles de James Dean. Dans La mort vous va si bien, ce qu'elle le dire. Il y a un plan où il incruste James Dean, Humphrey Bogart aussi, je crois, dans un plan de La mort vous va si bien.
Ah ouais.
Donc En fait, on est en train, ça y est, on y est arrivé, ouais, quoi. Ouais. Ressusciter les morts.
Alors, et le projet qui aura été charnière dans tout ça, c'est un film que je déteste, mais qui est l'Imaginarium du Docteur Parnassus, où là, justement, on a décidé de ne pas ressusciter Isseljord parce que la technologie n'existait pas à l'époque. On avait pris 3 acteurs à la place, on a dû modifier le scénario. Ça veut dire que pour moi, le seul aspect positif de ça, c'est qu'on va pouvoir finir les films déjà bien engagés avec un comédien, et voilà.
Après Christopher Nolan qui prend Fernandel pour son prochain film, je suis pas sûr que c'est une bonne idée.
Non, mais j'attends de voir.
Mais pour raccrocher à ta question, Thomas, non, les nouveaux outils numériques ne vont pas mettre fin, vont pas faciliter la tâche. Bon, la facilité, oui, va rendre les choses un peu plus confortables. Mais au bout du bout, je pense que qu'est-ce qui fait la différence, c'est le talent, tout simplement. Alors que t'aies du vrai sang, du faux sang, un logiciel, le talent pour raconter des super histoires.
Donc je pense moi, à, je vais donner la parole à Antoine, mais je pense à un film dont on a parlé largement l'année dernière dans notre émission sur 2019, c'était le film Midsommar, où là, il y a probablement de la VFX pour les rendus notamment, mais il y a d'abord une idée d'originalité qui fait que, enfin voilà, j'abonde dans ton sens, Antoine.
Non, mais je me pose toujours cette question quand on voit des gens qui ont été réincarnés à l'écran ou non. C'est la voix, ils font comment? C'est aussi des effets spéciaux,
doubleurs.
c'est des imitateurs, je veux dire c'est
je pense que tu Yves peux, Lecoq à chaque fois.
Non mais je pense que tu peux récupérer une voix et puis faire ce que tu veux.
Dans South Park, ils ont repris les voix de Isakai, ça s'entend pas du tout pour refaire le chef. Justement, c'est un effet exprès où ils font un montage tout pourri et d'effets sonores où là tu vois que l'acteur n'était pas là, quoi, tu vois.
Ouais, enfin pour moi c'est compliqué de faire la voix de quelqu'un qui est pas là.
Bravo Thomas.
Alors
Arrête, les gens vont croire qu'elle est morte.
Ah, malheureusement non.
Horrible.
Alors du coup, moi oui, je posais la question de la moralité, mais on y a globalement répondu sur la réincarnation. Maintenant, on va passer à un autre débat, c'est le fait de rajeunir des acteurs. On l'a vu de manière plus ou moins réussie dans principalement aujourd'hui les films de super-héros. Donc on a 2 cas. Oui, Antoine ?
Il y a Jim Neiman aussi, moi je vais penser à lui tout de suite.
À Jim Neiman, ouais.
Et à Irishman.
Et à Irishman,
ouais, c'est vrai. Irishman, c'est vrai que pas bête du tout les copains. Et moi je pensais du coup à Samuel Lee Jackson dans
Captain Marvel
et à Nicole Kidman et son cum dans Aquaman, je sais plus le nom de l'acteur.
Non, mais elle était plus loin, Nicole Kidman, parce qu'elle s'est fait rajeunir la tête en vrai
en plus. Il n'y a pas eu que de l'effet numérique là-dessus. Et voilà, pareil, qu'est-ce qu'on pense en termes de est-ce que c'est plutôt quelque chose de positif pour le cinéma? Et je me demande aussi quel temps ça prend de faire tout ça, David.
Les Marvel, c'est différent parce que ils ont des acteurs très très connus. Donc du coup, quand ils font leur rajeunissement numérique,
ils ont de la matière.
Si je me trompe, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont une matière de dingue. Vu Samuel L. Jackson qui a commencé sa carrière jeune, qu'il retourne ses scènes, il y a un modèle de référence beaucoup plus simple.
Là, est-ce que ça choquerait de prendre un autre acteur, quoi? Surtout
ouais, je le sais public pas. Parce que moi ce qui me choque aussi c'est pendant des années il y avait du maquillage, on prenait les autres acteurs, ça marchait très très bien. Il y a une série là de Netflix, Dark, où il y a des personnages qui sont sur les différentes époques, et juste avec un habile travail de casting t'y crois.
Play de Max Boublil, avec Max Boublil.
Non mais c'est vraiment plus ça marche très très bien, tu vois. Et du coup c'est un peu dommage. Et dans Marvel, donc leur technique c'est vraiment des points qu'ils mettent sur le visage, alors que dans Irishman c'était le rajeunissement avec une caméra sur place.
Techniquement, c'est le gros challenge du film, c'est que Robert De Niro et Al Pacino voulaient pas jouer avec des marqueurs sur le visage. Du coup, il fallait trouver une autre technologie pour parce qu'il faut traquer les visages des gens pour pouvoir refaire après en image de synthèse. Et effectivement, du coup, si vous cherchez des images de la caméra utilisée sur Irishman, c'est un monstre énorme.
Ouais.
Parce qu'en plus de la caméra avec laquelle ils ont filmé les images, il y a des capteurs à infrarouge de chaque côté de la caméra pour essayer de traquer sans marqueur sur le visage la performance des acteurs pour le coup.
Mais du coup, ça leur permet une performance beaucoup plus libre, etc.
Oui.
Mais t'as aussi, c'est comme dans les réincarnations, t'as ce problème d'Uncanny Valley où au niveau des yeux, il y a toujours un problème. Enfin, t'arrives jamais à avoir un rendu parfait parce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas réel. Et donc, du coup, je pense que même dans des années, on dira toujours, il y a un truc.
C'est chelou.
Ce que je trouve intéressant moi aujourd'hui, c'est que je pense que sur une image fixe, aujourd'hui, on est capable de vraiment imiter à 99,99% la réalité.
La fin de Rogue One, par exemple. La fin de Rogue One.
Ouais, non, mais toi, oui, ça a déjà bien vieilli. Ouais.
Mais même, par exemple, rien qu'en reprenant Irishman, même les plans qui marchent le moins dans Irishman, je pense qu'on regarde une image fixe de ce plan-là, on dit pas que ça marche pas. Ouais. Finalement, aujourd'hui, là où on n'a pas encore peut-être le vivant, c'est les micro-animations, les micro-mouvements qu'on peut avoir dans le visage, dans les yeux, etc.
L'élasticité de la peau, la lumière qui se reflète sur la peau, c'est des trucs...
Mais par exemple, aujourd'hui, on a un gros projet de développement et de recherche sur l'œil, pour refaire un œil humain de manière ultra réaliste. Et par exemple, on va aller jusqu'à simuler de manière physique les contractions et c'est-à-dire qu'on va construire un iris pas comme un disque plat, on va construire un iris avec plein de fibres pour pouvoir simuler l'ouverture ou la fermeture de la pupille et vraiment essayer d'aller trouver cette qualité du vivant dans ces tout petits détails là. Parce que c'est peut-être ces 5% là qui manquent aujourd'hui c'est tellement important en fait.
Je sais pas ce que t'en penses. Moi je pense qu'on n'y arrivera jamais.
Je pense
que c'est impossible. C'est impossible parce que comme on dit, les yeux c'est le miroir de l'âme. Et c'est la vérité. C'est parce que les yeux sont une fenêtre vers une personne. Tu peux pas refaire ça. Mais peut-être qu'on s'y approchera. On s'y approchera, mais il y aura toujours un truc. Mais moi, j'ai découvert le rajeunissement sur X-Men 3. Moi, c'est la première fois que j'avais vu ça avec le grand génie Brett Ratner. Alors, je sais plus qui était sur...
Qu'à l'époque, c'était... En fait, il y a des studios dans le monde qui sont spécialisés dans le rajeunissement numérique. Ouais. Et en fait, c'est pas une technologie de reconstruction en images de synthèse. C'est qu'on va simplement avec des outils un peu... Un espèce de Photoshop un peu poussé, on va venir lisser les rides, etc.
D'accord.
Donc c'est une technique 2D directement de travail sur l'image filmée. On vient pas comme Irishman recréer un visage en image de synthèse pour complètement voilà.
C'était du lifting donc,
un lifting numérique 3. Voilà. Et ça, il y a des studios qui étaient spécialisés là-dedans.
D'accord.
Un truc qui s'appelle Lola VFX par exemple. Ils ont fait ça pendant des années et des années et c'était leur truc. Voilà.
Que moi, j'ai vraiment marché, quoi. C'était la première fois que je voyais ça, j'étais bluffé.
Revois-le parce que ça a très bien vieilli.
Mais c'est possible que parce qu'à l'époque, en fait, ils ne font que manipuler l'information qui a été enregistrée
existante.
Qui existe.
Ouais.
Il n'y a pas de création de quelque chose qui peut-être. Voilà. Alors que c'est vrai que maintenant, Gemini Man, par exemple, ou Irishman, on vient complètement recréer un visage.
De A à Z, Mais je trouve ça fascinant, le rajeunissement. C'est vrai que c'est fascinant, notamment les Marvel. On voit effectivement Michael Douglas dans Ant-Man. C'est vrai que c'est bluffant. Ouais. L'acteur dans Galaxy... Kurt Russell.
Ça, c'est très bien.
Guardians of the Galaxy.
Guardians of the Galaxy 2, c'est extraordinaire.
Alors, dans Tron 2, c'était pas terrible.
Après, même dans Captain Marvel. Dans Captain Marvel, Samuel Jackson n'avait pas cette gueule-là. Parce que, en gros, c'était la gueule du Jurassic Park qu'il avait dans Jurassic Park. Mais, somme toute, ça marche très bien.
Ouais.
Après, je trouve qu'il y a une certaine magie... une certaine poésie dans le fait de faire jouer un acteur jeune par un autre acteur. Et je trouve que il y a quelque chose de supplémentaire, il y a quelque chose de différent. Moi, je pense à Looper, faire jouer Bruce Willis jeune par Joseph Gordon-Levitt, magnifiquement maquillé, c'est un maker japonais, je crois. Ou vraiment, t'y crois, vraiment.
Ah, c'est marrant, moi j'allais dire exactement le contraire, que j'y croyais.
Et
pas
moi,
du tout.
J'y croyais
mais,
à fond.
Mais que le film marche tellement bien que, en fait, tu t'en fous, au limite. Et tu l'acceptes.
Ouais, c'est ça. Tu l'acceptes. C'est super bien fait, c'est du maquillage. Hein,
parce que quand tu vois Samuel L. Jackson, en fait, tu cherches.
Oui,
tu cherches à voir comment ça a été fait. Du coup, tu sors peut-être un peu du film, tu sors de ta scène parce que tu cherches.
Et puis, regarde la fin de Rogue One. Qui est pas si vieux que ça, mais qui a, en fait, en termes d'effets spéciaux, visuels et de rajeunissement, il a très mal vieilli, notamment Moff Tarkin. C'est ça, le personnage. Le personnage. Et lui, pour le coup, tu vois vraiment une tête en image de ça. En 3D,
moi, je savais pas.
Déjà, je trouve qu'à la base, Tarkin, c'est pas une grosse réussite. Ouais. Même si, bon, voilà.
Ah, je trouve.
Moi, autant Leia était plutôt réussie.
Ah, moi, je trouve le contraire. D'accord. Moi, je trouve que Tarkin était super
bien réussi. C'est intéressant.
Et Leia, je l'avais trouvé dégueulasse.
Ah, ouais, Leia, comme quoi, c'est un peu.
Et
je pense aussi, en fait.
Et je termine juste sur le. Si Coppola avait accès à ces technologies, on n'aurait jamais eu De Niro quoi, dans Le Parrain 2.
Ouais.
Je trouve
qu'il y a le meilleur exemple ça.
Voilà, je trouve que il y a quelque chose de comment dire, ouais, de magique dans le fait de prendre un acteur vieux et de le faire jouer par un autre acteur qui n'est pas le même et dans sa version jeune en fait. Moi, ça fait
comme dans Dumb and Dumber.
Mais j'assume totalement.
Mais là, c'était pas dingue. Antoine ?
Moi, j'ai une question, du coup, je réagis un peu à ça, parce que du coup, vu que je me suis un peu renseigné, j'ai vu pas mal de choses sur Internet, et notamment, j'ai vu énormément de choses sur le deepfake, ce fait de remplacer des visages dans des interviews, juste sur des gens, et je me dis, mais du coup, est-ce qu'il y aurait pas... Je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, mais il y aurait pas moyen, du coup, de prendre juste un acteur qui ressemble un peu, on va dire, dans la corpulence ou autre, et de coller le visage d'un acteur jeune, parce que j'ai vu un deepfake qui m'a fait mourir de rire, où c'est Jim Carrey, à son âge aujourd'hui, mais avec son visage quand il était dans Food Irene. J'en pouvais plus, moi. Ouais. Je trouvais ça trop drôle.
Il y a le youtubeur Control Shift Face, ce youtubeur qui est spécialisé dans le
deepfake.
Dans le deepfake, il remplace, il a pris un extrait de Shining, il a mis la tête de Jim Carrey à la place de celle de Jack Nicholson, et c'est super bien.
Il retourne
le futur
aussi.
Mais après, je pense que c'est pas la même méthode, c'est pas une recréation de visage, c'est un calque, quoi.
Je suis pas spécialiste du tout dans le deepfake, et effectivement, c'est pas quelque chose qui nous touche aujourd'hui en effet visuel du tout, mais de ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y a des gens qui disent que ça marche très bien pour du YouTube, parce que la compression YouTube fait qu'aussi les détails sont pas forcément là, mais qu'on essaierait de faire la même chose avec une qualité cinéma sur un écran de 25 mètres de large,
ce serait
insupportable. Ça marcherait beaucoup, beaucoup moins.
Oui, et puis ce serait sur des périodes plus longues, autant une vidéo YouTube qui dure 30 secondes à une minute, ça va quoi.
Et par contre, aujourd'hui, il y a une vraie percée de parce que c'est de l'intelligence artificielle, le deepfake. Ouais. Il y a une vraie percée de l'IA dans les effets visuels, dans plein d'autres domaines, d'amélioration automatique de qualité de l'image, plein de micro-détails de la création de la peau, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là.
Donc ça évolue très vite, ça. Ouais.
Skynet.
Ah, c'est intéressant. C'est un médium aujourd'hui qui continue d'évoluer en permanence au niveau technologique, et il se passe plein de choses.
On parle de Star Wars maintenant ou peu importe.
Tu peux parler de Star Wars.
Ouais, parce que par rapport à Moff Tarkin justement, moi je trouve que j'ai marché parce que il est surtout filmé dans la pénombre. Il est pas trop en full light en plein jour, et je trouve que Peter Cushing a le visage idéal parce qu'il a un visage taillé à la serpe.
Ouais.
Quand tu le regardes, il a presque une tête en forme de triangle,
c'est vrai.
Avec des traits très simples, émaciés, qui sont facilement reproductibles en image de synthèse.
Alors que Boudère serait plus chaud.
Ouais. Et c'est pour ça, je trouve que ça marche. Il est très monolithique, il est pas dans l'expressivité, et je trouve que là, ça marche. Et j'ai été, moi, vraiment bluffé. À la différence de Carrie Fisher, où, en plus, elle a un visage plus rond.
Oui, c'est vrai.
Elle est plus expressive. Ouais. Et là, sa doublure, son clone en numérique, j'ai pas du tout. Là, ça m'a. Ah, j'ai été vraiment choqué, quoi.
Et on a beaucoup parlé d'image. Maintenant, parlons un petit peu de son. Moi, j'avais une petite question que j'aimerais te poser, Yuen. C'est que on a recours à la post-synchro dans des films. Donc, c'est-à-dire, on refait des dialogues au-dessus de dialogues déjà faits. Et je voulais savoir, est-ce que tu sais à peu près la part d'une post-synchro dans une énorme production comme Star Wars et dans une production française plus classique, par exemple un film de Clapiche, j'en sais rien. Est-ce que c'est systématique ou est-ce que des fois on le fait pas du tout dans un film ?
Alors, je pense que c'est systématique. Je parle plus de mon expérience personnelle et pas professionnelle parce que du coup je touche pas à ça, mais j'ai entendu dire que c'était de l'ordre en moyenne de 75 à 80% des dialogues qui étaient refaits en post-synchro.
Donc les acteurs sont Ça se passe pas comme du doublage, par contre, ça, ils jouent la scène mais avec des micros plus près.
Oui, c'est pas,
ils sont pas dans une cabine de doublage à avoir leur.
Non, pour moi, oui, on rejoue la scène avec un micro plus près dans un environnement contrôlé au niveau sonore, et ensuite au mixage, on va replacer le son dans son, enfin le dialogue dans son environnement en le remettant à la bonne distance dans la profondeur de l'image, etc. J'ai entendu dire que c'était de l'ordre de les trois quarts des dialogues sont refaits.
D'ailleurs, c'est compliqué parce que la plupart des comédies que tu vas voir, tu comprends pas la moitié des dialogues. Ouais. En termes de mixage, je trouve qu'à chaque fois, c'est assez.
Je crois que c'était en termes de scénar, j'étais.
Oui, aussi, ouais. Mais tu vois, souvent, tu dis quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ?
Donc voilà, c'était ma petite question que j'avais envie de poser. Je vais poser une dernière question et après, on pourra passer à nos références en termes de post-production. Je voulais savoir le coût de la post-prod par rapport. Est-ce que ça fait vraiment. Ça peut faire gagner de l'argent ou est-ce que ça fait forcément perdre de l'argent ? On pensait, David m'avait cité un exemple, la série The Mandalorian aujourd'hui, qui a réussi à gagner pas mal d'argent en créant. Alors, une technologie que tu peux expliquer, David ?
Ça sera plus toi, mais en gros, si j'ai bien compris, ils tournent la série sur un énorme écran LCD, en gros, enfin 4K machin, où t'as en même temps la caméra qui calcule en temps réel l'environnement 3D. Donc du coup, ça permet de faire, s'ils veulent tourner 7 heures de tournage en simulant l'aube, ils peuvent le faire, alors qu'avant, ils étaient obligés d'aller sur place et de tourner juste pendant un petit créneau. Et donc c'est pareil, là, c'est Jon Favreau, et c'est révolutionnaire. Donc Oblivion l'avait fait, au départ, c'est vraiment le film Oblivion qui l'avait fait, mais vraiment sur... c'était juste pour simuler l'immensité du décor, mais là apparemment sur la saison 2 de Mandalorian ils vont le faire encore plus.
Ouais, encore plus, ouais. Et c'est une collaboration entre Lucasfilm, ILM et Epic, qui est donc Unreal Engine, et c'est Unreal Engine qui effectivement fait tourner ces images qui sont pour le coup rendues en temps réel à
photoréalisme
à probablement 60 images par seconde ou Après, je suis pas certain, je me rappelle plus, que ce qu'on voit dans le film, c'est les images du tournage. Il est possible que sur certaines séquences, ça le soit, et je pense que malgré tout, il y a des plans où ils ont quand même détouré les personnages et refait quelque chose de manière plus traditionnelle.
Cette technologie existe, ils l'ont utilisée peut-être un petit peu sur The Mandalorian.
Mais en tout cas, c'est clairement, ça marche, et ça va.
C'est futur, en fait, apparemment, ils l'ont fait de plus en plus au fur et à mesure du tournage de la saison 1. Donc au départ, c'était juste pour des décors extérieurs, et après, ils ont recréé des usines, des trucs comme ça. T'avais notamment une scène dans un cargo. Apparemment, c'était... Et donc là, pour la saison 2, ça serait pour tout. C'est assez dingue de se dire ça, quoi.
Oui, ça, c'est... Ouais. Et je pense que même que pour les acteurs, c'est tellement plus agréable de jouer...
Sauf que quand tu regardes les effets, enfin, le making-of, c'est vraiment que la caméra qui suit le truc en temps réel. Donc quand il se déplace, la caméra et le décor changent. Et donc du coup, lui, l'acteur, en tant qu'acteur, toi, tu vois juste un truc un peu flou, quoi.
Rien que dans l'ambiance lumineuse,
parce que ça recrée en fait, la lumière vient des LED.
Voilà, c'est ça, ça permet.
C'est dingue.
Et entre autres sur le Mandalorian, le fait qu'il ait une armure métallique qui reflète énormément, du coup, ça facilite énormément la tâche d'avoir directement les bons reflets son armure.
Mais là, le terme.
Pense à tes collègues là.
Post-production aujourd'hui, il n'est plus valable. Les effets visuels, les effets spéciaux font partie intégrante de sont maintenant en même temps que le tournage en fait.
Le dernier Avengers, une anecdote que je trouve dingue, c'est que dans le tout dernier là, ils ont changé au dernier moment l'aspect de leur combinaison pour voyager dans le temps. Alors au départ, ils avaient leur costume de base. Et après, dans le film, toutes les scènes où tu vois qu'ils ont leur combinaison de voyage dans le temps, c'est en image de synthèse.
Ça a été fait par Framestore, justement.
Du coup, c'est dingue parce que tu te dis, ils ont tellement des moyens.
Ils ont perdu de l'argent, clairement.
C'est ça, mais ils disent, on verra, on réglera ça en post-prod. Là,
mais Danny Boone, il est pas en habit de facteur dans Bienvenue chez Ch'ti à la base.
Il est en cosmonaute. Antoine ?
Non, mais ça se voit aussi au générique de fin des films en général. C'est quand on voit le générique défiler, le nombre de personnes qui bossent dans les effets visuels et spéciaux, c'est limite deux fois plus que l'équipe de tournage sur place, quoi. Donc franchement, je pense que ça fait partie intégrante du cinéma d'aujourd'hui. Je trouve que c'est en belle voie pour évoluer encore plus, donc il y a plein de belles surprises qui arrivent. Bon, il y aura encore des couacs, je pense qu'on aura encore des Sonic, des Cats et tout ça. Mais après, il faut peut-être aussi que la vie publique se calme un peu sur certaines choses.
Mais je suis en partagé parce que en même temps c'est formidable, notamment pour tout ce que par exemple le Mandalorian, je trouve que c'est vraiment un truc formidable en termes de tournage, mais
ça reste quand même du fossoyeur du vrai cinéma, tu vois. Quand tu vois Avengers, c'est vraiment à 80% du film d'animation. Donc au bout d'un moment, t'appelles plus ça un film, tu vois. Et moi, je trouve que c'est... Enfin, il y a une espèce d'orgie des effets spéciaux en ce moment, et ça te permet de voir des trucs que tu pouvais pas voir avant, mais en même temps, là... Est-ce que ça va ressembler vraiment à du vrai cinéma ?
C'est toujours le débat de foi, ouais. C'est surtout le talent qui est primé, ouais.
Oui, parce que si on regarde un peu les films récents cette année, 1917, ouais. C'est un film bourré d'effets visuels.
Oui, bien sûr. Mmh. Bah,
ouais, mais qui sont au service de l'histoire, mmh. Et qui finalement, pour moi, là, il n'y a pas une débauche d'effets visuels. C'est... Je suis d'accord par rapport à Marvel et tout, mais aussi l'autre problème, c'est que c'est il y a des millions de gens qui vont voir ces films.
Bien
et
sûr.
Du coup, tant qu'il y aura une demande, et eh ben,
bien sûr,
ouais.
Bien sûr.
Mais ouais, il y a sûrement un shift aujourd'hui de la post-production rejoint de plus en plus la production.
Oui, c'est ça,
ouais.
À part entière.
Le rôle du superviseur des effets visuels sur un tournage devient très très important.
Mais on a de plus en plus d'attentes aussi sur les effets visuels au fil des années, quoi.
Et on parlait du son tout à l'heure. Pardon, je mélange les sujets.
C'est pas grave.
Il y a un excellent documentaire que je vous recommande, Making Waves. Donc faire des vagues sur les sound designers, notamment avec Walter Murch, Gary Rightstrom, enfin des légendes du métier. C'est un documentaire fabuleux sur ce métier qui est pas très connu. Ouais. C'est extraordinaire et qui démarre avec une très jolie phrase de Walter Murch qui dit que en fait quand tu es dans le ventre de ta mère, le son est la première chose que tu captes du monde, c'est le son. C'est les rires, c'est la voix de ta mère, etc. Et c'est un documentaire extraordinaire, très réussi. Et le bouquin de Walter Murch, Au doigt et à l'œil, qui est aussi très très bien fait, où il parle de son métier. Walter Murch, qui est pour moi une légende, enfin une sommité du sound design.
Pour conclure peut-être sur ce sujet, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui dit que le son au cinéma, c'est 80% de l'impact émotionnel d'un film, ouais, pour 20% du budget.
Ouais.
Donc c'est fondamentalement important, et moi qui le découvre un peu au travers des courts-métrages qu'on fait avec la structure qu'on a créée à Londres, c'est un univers fascinant tout autant que l'image.
Ouais,
c'est
carrément.
Je pense à peut-être le Chant du Loup par exemple cette année qui a gagné le César du son, mais c'est vraiment fabuleux. Il y a un travail sur le son.
Ou le podcast Parlons Péloche par exemple, qui est magnifiquement mixé.
Non, mais à
qu'est-ce que l'on pense, Béa
Dunkerque, niveau
je suis
son.
Tout à fait d'accord avec toi, Thomas.
Tu m'as vu avec le doigt sur la touche. Alors on a fait un tour de pas mal de sujets d'actualité, on a pu balayer tout ça, et maintenant on va peut-être parler de nos références, des moments de post-production dans notre carrière de cinéphile qui nous ont marqué, et ça on va le faire tout de suite dans l'avant-dernière séquence de l'émission, le You Fuck My Wife.
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Le You Fuck My Wife, ça sert plus à rien de le résumer, je l'ai fait juste avant le jingle, alors on y va. Quels sont vos... on va pas parler que d'effets spéciaux, mais probablement principalement vos moments de cinéma où vous vous êtes dit « Ouh là là, là, il y a eu du taf en post-prod, peut-être Fouad, pour commencer ?»
Oui, alors excusez-moi, je vais passer pour un gros psychopathe. Hein, mais
Zemeckis ?
J'ai encore évoqué Robert Zemeckis. C'est tout son travail sur la performance capture, et je vais déjà toute son œuvre de performance capture, qui est magistrale, parce que Zemeckis a décidé de travailler, il a essayé une autre méthode de travail, c'est-à-dire d'abord d'enregistrer le travail des acteurs avec des capteurs dans un cube, etc., et de télécharger les interprétations des acteurs dans leur double en image de synthèse. Et il a eu un succès, on va dire, variable, bien que son drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey a fait un carton. Ouais. Moi, je vais citer un film qu'il a produit, qui est Monster House,
de
Jim Cannon, où beaucoup de gens ont pensé que c'était de l'animation à la Pixar, alors que c'est de la performance capture.
Toi, tu me l'apprends.
À 100%.
C'est Kathleen Turner.
Avec Kathleen Turner. Fait, c'est des gamins qui ont été, voilà, donc, motion captés dans un studio, etc. Il y a des acteurs derrière. Et ensuite, ils ont téléchargé les interprétations dans leur doublure numérique.
Mais quand tu le vois, tu sens que c'est assez novateur aussi.
Tu sens, parce que le faciès.
C'est quelque chose de différent.
Tu vois, c'est pas pareil.
Ouais.
On n'est pas sur l'animation, et tu sens quand même que tu vois, c'est quand même un peu plus réaliste. Et c'est donc je demande à tous les fans de Stranger Things
et ceux de Stranger Things aussi.
Pardon. Oh putain. J'ai une la bouche de traviole.
C'est horrible parce que tu vois, hein, moi si je fais ça, je le coupe au montage, bah, toi ouais, je le laisse et je me fous de ta gueule. C'est horrible, c'est horrible. Mon...
Tu pourras le remettre là, le comme tu fais là.
Un
tu...
petit remix, ouais.
Ah ouais.
Et moi dans le milieu du mixage, on m'appelle
là,
le.
Pour le coup, c'est
le
un
DJ.
Formidable hommage aux années 80, un vrai Monster House. Et un autre exemple, parce qu'on parlait de est-ce que la post-prod peut faire foirer un film ? Oui, je pense que oui, carrément. Moi, j'ai un exemple tout récent, c'est Le Roi Arthur de Guy Ritchie.
Ouais,
je trouve que c'est un film qui est fabuleux par ses effets spéciaux, ses effets visuels. Oui. Je trouve que c'est extraordinaire, vraiment, notamment la scène d'ouverture qui est folle. Je trouve qu'il y a des tableaux dans ce film que j'ai jamais vu en salle. Et à un moment donné, même les espèces de nymphes de l'enfer là qui sont sous l'eau. Oui. Je trouve que c'est fabuleux, mais le film est flingué par son montage. Et Guy Ritchie n'a pas pu s'empêcher de ressortir ses ficelles de son montage à sur ses films de gangsters,
ouais,
là,
avec Snatch,
des flash forward, flashback, flash forward. Là, ça marche sur Arnaque, Crime et Botanique, Sherlock Holmes, pas de souci. Mais là, sur Le Roi Arthur, ça te flingue les scènes, littéralement. C'est dommage parce que, franchement, ça peut être vraiment un grand film, Le Roi Arthur. Voilà.
S'il avait eu un meilleur scénario aussi.
Antoine, d'ailleurs, qui vient d'ouvrir la bouche, toi, un grand souvenir que t'as.
C'est un autre débat.
Moi, j'ai plein de souvenirs. Bah, qui veut la peau de Roger Rabbit, évidemment, qui est incroyable. Moi, quand j'étais gamin, j'ai vraiment cru du coup que les personnages de dessin animé existaient, mais qui voulaient juste pas me voir.
Il y avait le monde des
comme les autres personnes.
Dans Space Jam.
Ou Space Jam, ouais. Non, mais le vrai souvenir que j'ai, c'est Terminator 2.
Ouais.
J'en ai déjà parlé, mais Terminator 2, moi, ça m'a cloué au sol.
Ouais.
C'est-à-dire. Quand il passe à travers les barreaux, quand il y a tout ça, moi c'était les premiers effets spéciaux où j'étais en mode oh incroyable, parce que autant Jurassic Park, je me disais oui on voit parfois c'est des maquettes, c'est ou même l'histoire sans fin, tu vois que c'est des animatroniques ou autres et t'as l'habitude de ça, mais là j'étais en mode ok, donc je viens vraiment de voir techniquement pour moi en tant que spectateur quelqu'un passer à travers quelque chose de tangible, ouais. Et c'était pas Casper,
ouais.
Parce que c'était ça qui m'avait choqué.
Tristan, peut-être ?
Moi, une méga claque, c'est assez vieux maintenant, c'est The Placard avec Daniel Auteuil. C'était ouf. Non, bah, du coup, Jurassic Park, on en a déjà parlé, mais moi, la scène des brachiosaures.
Le plaisir de se retrouver, Tristan.
Oui.
Mais c'est, ce film est incroyable. Hein. Et ça commence à être très vieux, en fait. Et du coup. Mais ça n'a pas vieilli, ça se regarde encore très bien aujourd'hui.
Là,
mais après, dans les plus récents, moi, Inception, quand je l'ai vu au ciné, ça m'a mis une claque, mais ils ont plié Paris. Visuellement, c'était ouf. Quoi. C'est ce qui, j'avais jamais vu ça, et je trouvais ça vraiment incroyable.
Comme Nantes cette année, hein. 2-0.
Non, et puis 2001, l'Odyssée de l'espace, mais c'est un de mes films préférés, donc c'est l'effet maquette avant Star Wars. Moi, ça me touche, et j'ai fait une expo Kubrick où t'avais les maquettes devant toi, et je trouve ça incroyable de le rendu que ça a.
Et
après,
le film est
aussi
indatable à cause de ça.
Enfin, ouais, non, mais
il n'a pas du tout vieilli. David ?
Bah, je vous l'avais dit, hein, Jurassic Park. Moi, je vais rajouter Pacific Rim parce que je trouve que c'est une splendeur visuelle, ce film. Tous les films de Nolan, en fait, parce que Inception, oui, mais aussi Interstellar, c'est du photoréalisme hallucinant. Je vois pas où sont les VFX dans le film. Tous les films d'Alfonso Cuarón, en fait, parce que même on parle de Gravity, mais Les Fils de l'Homme, c'était déjà une prouesse technique hallucinante à l'époque. Puis évidemment, Cameron avec T2. Pareil, 2001, Odyssée de l'espace, je l'avais noté. Je vais rajouter aussi The Thing de Carpenter, qui est en termes de, toute la post-prod du film, elle est dingue, avec des maquettes, des animatroniques hallucinantes. Et avec un budget moindre, t'as du Peter Jackson et du Neil Blomkamp qui arrivent à faire des trucs hallucinants, notamment Neil Blomkamp, District 9, Elysium, c'est des films avec des effets spéciaux et des effets visuels dans tous les coins. Pourtant, le budget est vraiment minime.
Le budget aussi, hein,
ouais, là, c'est ça, exactement. Mais il arrive à faire la nique à des grosses productions hollywoodiennes, et ça, c'est vraiment dingue. Donc, il y a de quoi faire, on peut en parler pendant des heures et des heures.
Bien sûr.
Et Blomkamp a créé une chaîne YouTube géniale où il diffuse gratuitement des courts-métrages.
Bigorneau et coquillage, ça s'appelle.
Où il fait test des nouveaux effets spéciaux. Ouais. Et j'ai oublié le nom de sa chaîne, c'est vraiment fabuleux, regardez.
Depuis le début, il fait que des pubs pour des chaînes de youtubeurs.
Et forcément, ça va m'intéresser énormément pour toi, Yuen, qui est toujours la tête dans le guidon et les mains dans le moteur. Est-ce qu'il y a encore des moments qui t'émerveillent?
Le roi scorpion.
Indiana Jones 4.
Moi, le premier qui me vient en tête, c'est le film qui m'a donné envie de faire ce métier-là. et c'est que j'ai un très fort souvenir et je sais clairement que c'est ce film sans aucun doute, c'est Le Cinquième Élément.
Qui n'a pas trop peut-être... mal vieilli non plus. Hein.
Qui a pas trop mal vieilli parce que je pense qu'il y a un chouette travail sur les maquettes aussi et sur l'intégration entre, donc c'est Digital Domain qui a fait les effets visuels et il y a un beau travail d'intégration entre le travail de maquette et des effets numériques. Donc ouais, voilà, le premier qui me vient en tête c'est Le Cinquième Élément parce que c'est le film qui m'a donné envie de faire mon métier clairement. Et plus récemment, dans un travail de, où les effets visuels sont complètement intégré au processus de création cinématographique. Je parlerai d'Ex Machina et de manière générale d'Alex Garland, des gens comme ça qui ont une belle approche de ce que peut rajouter à un projet de, les effets visuels.
Et surtout qu'on n'est pas dans l'opulence. Donc c'est ça qui est intéressant dans ces projets-là.
Ouais.
Et donc tu parlais, Yoann, c'est marrant que tu parlais des films qui t'ont donné envie de faire ce métier parce qu'on va passer à la chronique qui me donne envie d'arrêter le métier de podcasteur tous les jours. Le pilule rouge.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête.
Et personne n'a dit Avatar.
Rouge, tu restes au pays des merveilles.
Ouais, techniquement, Avatar, ça m'a mis une claque, mais c'est plus techniquement qu'en termes d'un objet, d'un beau film. Ouais.
Vous voyez, on continue de parler pendant les jingles, nous on continue à vivre notre vie. Donc Avatar aurait pu avoir sa place aussi dans ses bons souvenirs d'effets spéciaux. Passons aux mauvais souvenirs pour Yoann dans le futur. La chronique d'Antoine, c'est parti Antoine.
Pilule bleue. Ah non, c'est vrai, ça je l'ai fait la dernière fois que tu es venu. Je vais pas le refaire.
Et les 10 fois d'après aussi, mais Yoann ne sait pas.
Parce que la post-production, c'est ça aussi. C'est corriger des erreurs.
Mais c'est vrai.
Donc, moi voilà. J'en vois une là.
Allez.
Et elle est très fière de vous présenter son petit jeu. Alors, faut savoir que quand Thomas m'a dit « Antoine, tu vas devoir faire un jeu sur la post-production », j'étais en mode « Oui, alors je vais prendre des techniques de post-production, je vais prendre des trucs dont personne ne connaît et non pour faire des jeux de mots dessus. »
Et puis
je me suis dit que mon jeu était déjà assez nul comme ça pour pas le compliquer.
C'est de rajouter une couche de merde sur la lasagne de chien.
Exactement. Du coup, j'ai fait simple, j'ai pris deux films qui ont été reconnus pour leurs effets spéciaux, Avatar, effectivement, qui a été vendu principalement là-dessus. Et Gravity qui pour le coup c'est vrai que le voir en salle c'était assez fou, on sentait le vide autour de nous et c'était très très
le voir à sel c'était pas mal non plus.
Et ce qui est intéressant entre autres dans Gravity c'est qu'en plus des effets visuels il y a le montage. Enfin, le premier plan dure 17 minutes. Là aussi encore une fois Alfonso Cuarón que je pourrais rapprocher peut-être d'Alex Garland, c'est quelqu'un qui a parfaitement compris en quoi les effets visuels peuvent apporter à un projet sans être débauche et un peu on colle ça par-dessus. Et même Roma, son dernier film, c'est bourré d'effets spéciaux, par exemple. Il y a plein de choses qui ont été effacées, modifiées, etc. sans que ça se voit forcément. Et voilà, ouais.
Donc souhaitons la même réussite aux Oscars au réalisateur d'Ex Machina.
Ouais, tout à fait.
Alors, du coup, je rappelle le principe du pilule bleu, pilule rouge, c'est simple, j'ai pris deux films, donc Avatar et Gravity, et j'ai fait des jeux de mots avec, donc c'est à vous de les trouver, voilà.
Et il y a un peu de tectonique, on le dit jamais, mais c'est très
parti des ingrédients.
C'est un son que tu as trouvé, que tu as décidé de mettre, et qui correspond
à
l'image que je renvoie, je pense.
D'ailleurs, les mitaines, faut arrêter, Antoine.
Oui.
On est en 2020.
T'es dans le cuir.
À étoile.
Le gel à effet mouillé.
Mon kéfier et mon gel à effet mouillé.
Alors... Sandrine Kéfier. C'est la fin pour tout le monde.
Alors... Et retrouver Antoine tous les samedis matins sur la place de l'Opéra.
Il se prend des cailloux des fois, mais continue pour la passion.
On est là. Alors, pour rappel, petit synopsis, Gravity, c'est Sandra Bullock qui fait de la GRS dans l'espace. Et Avatar, c'est des Américains qui ont trouvé le village des Schtroumpfs.
C'est parfait. Ça c'est une nouvelle bonne idée de pilule bleu pilule rouge.
Ouais, je trouve que c'est plus simple. En fait, ça simplifie tellement la vie que pour les trucs hallucinés. Et ça me fait rire.
Vous vous souvenez que j'avais essayé de faire ça dans d'autres émissions avec beaucoup moins de réussite quand tu
as moins de talent.
Ouais.
Alors.
C'est long à commencer. Hein.
C'est
Sandra... Parce qu'il a eu un compliment, il a pas l'habitude, il sait pas quoi faire humainement.
C'est historique là, on vient d'insister à un mot historique.
C'est Sandra Bullock qui fait de la GRS dans l'espace avec Leonardo DiCaprio qui la prend dans ses bras pour lui dire...
Gravity Titanic.
Gravity Titanic, très simple. On commence,
oh là là.
Très simple. Félicitations.
T'as lancé le son pendant que tu parlais.
Ouais, j'ai senti que j'étais bon. Hop.
Des Américains ont trouvé un certain village où un jeune enfant va partir à la conquête d'un château maudit pour trouver un chaudron au pouvoir...
Avatar, mais le chaudron magique.
Avatar, mais le chaudron magique.
Ajouter 4 points, évidemment.
Très,
de toute façon,
il
n'y a rien à gagner. Hein.
Absolument rien. Sandra Bullock fait de la GRS jusqu'à ce qu'elle rencontre un enfant avec son meilleur ami dans son bac à vélo.
Gravity Tuff.
Non.
Gravity.
Non plus. Non. Elle rencontre un enfant qui a mis son nouvel ami sur son porte-vélo.
Gravity.
Ah,
Gravity.
Il avait pas déjà fait avec le film Grave.
Ouais, non, c'est possible.
C'est possible.
Mais du coup, ça fait, il y a 3 films. J'aurais pu faire un super banc, quoi.
Depuis plus de 20 ans, des Schtroumpfs jouent à chat, au loup, à touche-touche, jusqu'à ce que les Américains arrivent et perturbent leur petit quotidien. C'est une bande de Schtroumpfs amis depuis 30 ans qui, à chaque fois qu'ils se retrouvent, ils essaient de jouer à chat.
Ah ouais, Avatar.
Ah oui,
Avatar.
J'ai plus le nom du film.
C'est Avatar, j'ai pas compris.
Tag.
Oula, d'accord.
Ouais,
C'est parce qu'on l'a fait dans un palon pélo, du coup. Je t'avoue que Yuen, je t'ai mis en porte à
peu. Histoire d'amis qui jouent à chat toute leur vie.
D'accord.
En fait, voilà.
Et, c'est sympa, super mignon.
Voilà, c'est pas un film quand même qui m'aura marqué personnellement. Alors,
Sandra Bullock se retrouve à faire la GRS dans l'espace parce que un certain George Clooney a pris une petite pilule bleue qui l'a fait partir en couille pendant 4 heures.
Ah, mais d'accord. Via Gravity.
Via Gravity.
Oh là là.
Ah putain, il y a une connexion entre Antoine et moi là.
Le sexe, c'est ça?
Non, c'est rencontré autour de Smédoc.
Faut savoir qu'Antoine, c'est un sacré liqueur.
Il y a des soirées Tupperware, moi je fais des soirées Viagra. Je dispose des pilules, tout le monde se retrouve, on les teste.
Vous utilisez une soirée Viagra? Pas ouf. Je déconseille.
Et le petit dernier, des Américains trouvent le village de ces petites créatures les plus résistantes au monde pouvant survivre dans n'importe quel environnement, y compris l'espace. C'est des toutes petites créatures qu'on a sur Terre. Et même que Fruit de la Station a fait tout un truc juste pour eux. Non, c'est limite microscopique, c'est des sortes de petits insectes tout moches. Une sorte de petit anus qui bouge avec des pattes. Vous l'avez pas?
Avatar Tampion.
Non, mais joli, c'est l'Avatar d'Igrade. Et moi qui pensais que tout le monde connaissait Avatar d'Igrade.
Non, mais c'est quoi le début de ton synopsis là? Le début de ton synopsis c'était.
Des Américains trouvent le village de ces petites créatures.
Qui peuvent vivre.
Les plus résistantes au monde, pouvant survivre dans n'importe quel environnement.
N'importe quel environnement, par exemple des pommes de terre, de la crème fraîche et des lardons.
Avatar Tiflette.
Voilà.
Ah oui, alors. J'ai à peu près 99 jeux de mots
avec Tartiflette.
Il a choisi Tardigrade, tu vois. Mauvais choix.
Mais oui, non, mais j'avais le court métrage d'animation, mais je sais pas si vous l'avez vu, Lava. Donc là, il y avait l'Avatar, il y avait plein, il y avait l'Avatar Tufle, il y avait beaucoup de choses. Je pouvais faire du Molière.
Non, mais t'as eu raison de rendre ça plus concis.
Voilà.
Je pouvais faire du Molière. Ouais.
Mais non, mais je
préférerais faire du Antoine.
Mais écoutez c'est aussi ça, les qualités de la post-production. Mais c'est que Thomas va pouvoir absolument rien couper au montage.
Moi, je laisse tout. Je te laisse toujours face au monde.
Face à ma solitude. Ouais.
Alors moi, je vais en profiter pour remercier Yuen. Moi, je suis très content d'avoir donné ça à nos auditeurs. C'est un épisode qui change un peu, mais vous en sortez peut-être grandi, contrairement à d'habitude. Donc merci Yuen. Alors du coup, tu disais en off ou en in, je sais plus. Toi, tu bosses sur la petite sirène, là, maintenant, pendant 2 ans. Donc ça veut dire pendant 2 ans, on fait que ça.
On fait que, oui, voilà.
Ok, sauf débauchage de dernière minute.
Sauf gros changement, voilà. Mais sinon, oui, ça va être des poissons, des coquillages, la couleur de l'eau, la couleur du sable. Et
les chansons.
Et l'angle de réfraction de la lumière.
Et rendre Sébastien intéressant.
Ouais.
En fait, alors, Sébastien est un crabe.
Combien de fois tu revois l'original, du coup?
Pour l'instant, je l'ai pas encore revu. J'ai regardé des images un peu pour me rappeler un peu, mais je l'ai pas revu. Mais pareil, le livre de la jungle, par exemple, j'avais pas re-regardé le film parce que, je sais pas, il y a...
C'est marrant.
C'est cette idée qui est intéressante. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un épisode entier sur les remakes, mais c'est peut-être plus intéressant de travailler avec le souvenir du film que de retravailler en regardant le film, en fait.
Ouais, parce que sinon on fait du travail de précision. Ouais. Et juste à la machine à café, est-ce que tes collègues bossent sur d'autres films ou vous êtes tout studio dédié à...
Non, on travaille sur plusieurs films en même temps. Donc en ce moment, par exemple, Framestore, on doit travailler sur 5-6 films.
Et tu peux nous dire lesquels
Donc il y a un projet qui s'appelle A Boy Called Christmas, qui, voilà, un conte de Noël pour enfants. On a commencé à travailler sur Suicide Squad.
Ouais.
Deux. Ouais. Voilà.
Non, plus, hein,
Et c'est pas trop tôt.
Donc, on termine Bond, La Petite Sirène. On a un film de George Clooney qui se passe dans l'espace.
Ok.
Gravity.
Non, je ne sais plus comment ça s'appelle, The Dark Knight, ou un... non, pas The Dark Knight, puisque ça c'est Batman, The Dark Skies, ou un nom comme ça, je ne sais plus. Je peux dire d'autres choses, mais peut-être qu'il faudra que je vérifie.
Est-ce que la cantine est bonne chez Framestore ?
Alors, on n'a pas de cantine.
Ah,
parce que resto ? Y en a... Non, ça n'existe pas en Angleterre.
Ah, ok.
Désolé.
Restaurant ticket ?
On a une machine à café.
Voilà,
machine à
dire que les auditeurs sortaient grandis. Bon, il y a encore des infos en plus, hein, et alors, dans la besace.
James Bond, il va être bien ou...
Alors j'ai eu la chance d'assister à une projection qu'ils appellent Friends and Family Screening pour tester le film, et moi j'ai bien aimé.
En tout cas merci beaucoup Yuen d'être venu de ton Londres, pas natal du tout, mais d'être venu, ça fait vraiment plaisir, j'espère qu'on pourra te recevoir dans d'autres émissions parce que c'est quand même un régal, hein. Est-ce que vous êtes d'accord de parler avec Yuen?
C'était un plaisir de revenir et je serais ravi de participer à de futurs épisodes aussi, parce que avant tout je reste un cinéphile et comme beaucoup de mes collègues avant tout on est des gens qui sommes passionnés de cinéma au-delà d'être juste passionnés d'effets visuels,
donc de Parlons Péloche voilà. C'est évident.
Et juste si je peux finir sur un petit quelque chose, le meilleur moyen de récompenser entre guillemets le travail de ces milliers de personnes qui créent les effets visuels des films que vous allez voir au cinéma, c'est de rester un petit peu à la fin des films et de regarder leur nom au générique, parce qu'on est au générique.
Et de les inviter dans des podcasts.
Et de les inviter dans des podcasts, voilà. Mais rien que de rester et de regarder les noms, vous verrez certainement beaucoup de noms francophones. C'est une mini reconnaissance qui... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on est des acteurs importants de ce qu'est devenu le cinéma aujourd'hui.
On peut le dire.
On a même galéré à trouver ton nom dans Star Wars au générique.
On peut le dire, avec Béa Tristan, on joue à toujours trouver Yuen Leclerc dans les génériques. Donc on l'a fait, on envoie une petite photo à Yuen, comme tu dois recevoir des milliers. Mais bon, j'imagine, ça fait toujours zizir. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut se dire? On se retrouve dans 15 jours pour parler d'un autre thème. Cette fois, ce sera pas un hors série, ce sera un genre cinématographique. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur toutes vos applis de podcast. On est sur Deezer, sur Spotify, sur Podcast Addict, sur iTunes, sur ce que vous voulez. Et en attendant, on essaye de se choper dans les salles obscures. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Si on n'arrive plus à ouvrir sa Gmail, dans quel monde on vit ?
On dit son Gmail.
Ouais, moi j'aurais dit son Gmail, mais après...
Une boîte Gmail. Sa Gmail pour moi.
Moi je genre pas.
Ouais.
Peut-être. Parce qu'on genre, là où
on dit son adresse, non ? Pas sa adresse.
Sa boîte mail, c'est vrai. Son Gmail. C'est vrai, c'est une discussion.
C'est un vrai débat.
C'est un vrai débat.
Est-ce qu'on lancerait pas plutôt l'émission sur ce débat-là ?
Ouais, bah, on dit un courriel et une email.
C'est bien connu.
Pas du tout.
Le son est bon.
Allez, on est parti. 3. Oh, c'est relou, j'en ai marre de ce setup. Hein.
Bon, pourtant, c'est plutôt propre. Hein.
Ouais. Ah. Ouais, non, mais je suis désolé, Tristan. Je suis pas très bon en cable management. Allez, 3, 2, 1.